Europe 1.
Se vider la tête tout en se la remplissant, expression empruntée à Mathieu Noël, hein. Vous le savez, sa mission chaque après-midi sur Europe 1, nous offrir des infos sérieuses sans se prendre au sérieux. Et le week-end, eh bien nous, on vous réserve un cocktail des moments les plus sympas des 8 derniers jours. Alors durant ces 2 heures, eh bien on sera en compagnie de Mathieu Noël bien sûr, mais aussi de sa complice Eva Roch, des journalistes d'Europe 1 en compétition pour la meilleure chronique. Et au programme, allez, pour d'ici à 17h, hein, des éleveurs qui prêtent leurs animaux, la sélection télé des Baroque pour les enfants et les ados, les secrets de l'album Thriller de Michael Jackson, les frasques de Ramadis, sans oublier une guitare de Kurt Cobain aux enchères. Mais c'est avec Imani qu'on va démarrer.
Vu qu'on ne peut toujours pas les accueillir en studio, on prend des nouvelles des personnalités qu'on aime par téléphone. Aujourd'hui, c'est la chanteuse Imani qui est en ligne avec nous. Bonjour Imani.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Imani, on ne va pas s'étendre trop longtemps sur la période étrange qu'on a vécue et qu'on vit toujours. Mais quand on est maman, comme vous, de deux petits, j'imagine que ces dernières semaines ont dû être assez éprouvantes. Qu'est-ce qui est le plus fatigant finalement, la vie de tournée ou la vie de maman confinée ?
Je crois que c'est la vie de maman confinée, ça c'est sûr. Il n'a pas besoin de réfléchir. Parce qu'en tournée, on est quand même bien sous-souté, on a un régisseur, oui. On a toute une équipe qui est là à dire « Imani, je peux faire quelque chose pour toi ?» Voilà. Et même à la fin, c'est un peu agaçant. On dit « Non mais ça va, je peux quand même lasser mes chaussures toutes seules. » Mais là, là, c'est pas du tout ça. Déjà, personne ne te demande comment tu vas. C'est tout de suite « J'ai faim, qu'est-ce que tu m'as servi, c'est pas bon.
» C'est vous qui devenez régisseur, ouais. En fait.
Eh oui.
En fait, en
carrément.
Confinement.
Ouais. Ouais, ça c'est sûr.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Imani qui nous fait l'honneur de passer un moment avec nous cet après-midi. Imani, vous avez dit il y a quelques années maintenant, sur scène, je me sens en vie, mais surtout je me sens à ma place. Je comprends pourquoi certains voudraient y mourir, c'est un lieu où l'amour est instantané. Vous devez être vraiment en manque en ce moment, Imani.
En fait, je pense que le manque, c'est aussi des choses qu'on ressent quand ben, on n'a rien à faire. Mais c'est pas du tout mon cas. Donc quand on est hyper occupé du matin au soir avec la famille, les projets, etc., on n'a pas le temps d'être en manque parce qu'en fait l'esprit et le corps il est toujours occupé. Je pense que souvent le manque c'est quand on n'a rien de mieux à faire. Donc on y pense tout le temps et ça devient une obsession. Et je dois avouer que c'est quand même pas mon cas.
Alors ce projet, Imani, vous nous en parliez, je crois, au début de l'année. Vous
oui,
êtes venu nous voir en studio.
Oui,
vous nous parliez de reprises de chansons pop réécrites, arrangées au violoncelle. Est-ce que vous, c'est là-dessus que vous avancez en ce moment ?
Exactement. C'est un projet de 8 violoncelles. C'est un octeur de violoncelle avec une voix seulement. Pas d'autres instruments, pas d'artifice, pas de looper électronique, pas de DJ, pas de trucs comme ça. Et on essaye, enfin j'essaye d'arranger des grosses chansons connues de la pop et avec les violoncelles et leur donner une nouvelle lecture, un nouvel habillage. Et c'est passionnant vraiment.
Eva ?
Est-ce que vous avez quelques exemples de chansons que vous êtes en train d'arranger ou c'est top secret pour l'instant ?
Bah, c'est pas top secret, mais comme on est dans le répertoire, mais ça va de Bonnie Tyler à Bob Marley, ça va Osier, on a fait Madonna, vraiment, enfin, je m'amuse, quoi.
Est-ce qu'il y aura Creep ? La dernière fois, vous nous avez fait Creep à Capella.
Ah oui, c'était bien.
Oui, normalement, il y aura Creep.
Ah bah voilà, c'est une raison de plus pour y aller au spectacle.
C'est clair.
Et puis, il va y avoir de la chorégraphie, il y a une mise en scène. La mise en scène, elle est de Masha Makaïev. J'avais vraiment envie de prendre un risque, d'aller plus loin que juste monter sur scène et chanter devant un groupe de musiciens, ce qui en soi est déjà beaucoup. Mais j'ai fait ça, j'ai fait je sais pas, des milliers de dates maintenant, et j'avais envie de proposer autre chose, et surtout j'avais envie de me mettre en danger moi. Donc j'ai aucun repère dans ce projet et ça fait à la fois peur et à la fois c'est excitant comme un enfant quoi. Vraiment je trouve ça.
Imani, vous aviez commencé ce projet donc avant le confinement hein, puisque on avait parlé déjà dans ce studio. Est-ce que le confinement a modifié quelque peu la nature du projet ? Est-ce que vous l'avez adapté parce que vous êtes inspiré par d'autres choses qui font que qui sont indues à ce confinement ?
Pas tellement. Par contre, ce que le confinement a apporté, c'est que du coup, pendant 2 mois, j'étais pas du tout dessus. Enfin, si j'étais un tout petit peu, mais peut-être 2 heures par jour, parce que le reste du temps, il fallait
avec les
gérer
enfants,
la maison.
Ouais.
J'ai pu peut-être avoir plus de recul sur la mise en scène, sur les erreurs, les choses que j'étais en train de faire. Mais par contre, ça m'a manqué de pas être dans la musique tous les jours, alors qu'on était quasiment tout le temps en studio. Et là, là, on a repris. On a repris. Et au début, on était quand même très rouillés, quoi. On s'est même plus. Et en fait, deux mois, ça suffit pour se remettre en question et se demander si on n'est pas en train de faire n'importe quoi, quoi. Donc, c'est vrai que le confinement, ça a été un peu bizarre pour ça.
La voix magique d'Imani est un octuor de violoncelle. Ça sent les 3T dans Télérama. Déjà,
ah oui,
d'avance,
clairement.
Je vous l'annonce. Imani fait un bout de chemin avec nous cet après-midi.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Une guitare semi-acoustique de Kurt Cobain du groupe Nirvana. On en parle dans un instant sur Europe 1 avec Mathieu Noël et Jean-Philippe Ballas.
Find the timing. Cause you were on my mind. I hope that you don't mind it. You know that I want you. You know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one. I'll try to meet someone. And there's so many guys. You told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will.
Chanson qui parle d'un amour non partagé dont on n'arrive pas à se libérer. Some Say par la Suédoise Nea est fortement inspirée de la chanson Blue d'Eiffel 65.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Et nous sommes avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock. Et on va découvrir à présent le sujet de Jean-Philippe Ballas. C'était ce mardi sur Europe 1.
Si le déconfinement est pour beaucoup de couples séparés par la distance ou le hasard d'un voyage l'occasion de retrouvailles émouvantes, c'est aussi pour d'autres l'occasion de douloureuses mises au point. Étais-tu vraiment seul dans cette grande maison à Malakoff ? Pourquoi la femme du boulanger te fait-elle de gros clins d'œil lorsque tu achètes une baguette ? Est-il vrai que tu as commandé une poupée gonflable sur Internet ?
Ah, oh mais laissez Mireille Mathieu tranquille.
Non,
et que non content de la baptiser Mireille Mathieu, tu aurais en plus avec elle des jeux borderline.
Fout à cagoule.
Oui, chez les Ballas, c'est règlement de compte à Malakoff. Pour oublier un peu ce nouveau confinement qui commence pour vous, Jean-Philippe, vous nous proposez aujourd'hui d'acheter la guitare de Kurt Cobain. Alors comment ça se passe ? On fait une grosse cagnotte litchi ?
Ah oui, j'ai l'impression.
Exactement,
ouais.
Je lance une cagnotte litchi parce que vous allez voir, le prix, c'est assez salé, mais en même temps, c'est quand même la guitare qui joue ça.
Ça
vous rappelle plein de souvenirs à tous, j'imagine. C'est une reprise d'une chanson de David Bowie, jouée un soir de novembre 93 à New York, sur le plateau de MTV. Vous avez tous reconnu.
Nirvana.
Eh oui, le live unplugged de Nirvana.
Il y a encore un quiz là ?
Non, non.
C'est la guitare de Kurt Cobain, soyons sérieux un peu Mathieu. C'est la guitare dont il joue ce soir-là qui va être mise en vente aux enchères. Ça sera Beverly Hills le mois prochain. Estimation de départ, $1 million. D'où effectivement la cagnotte Litchi.
Oui, alors, grosse cagnotte Litchi. Hein, oui, oui.
C'est pas n'importe quel modèle quand même. Il faut détailler, c'est une guitare acoustique ou plutôt semi-acoustique, parce qu'en vrai, si vous regardez bien la vidéo, vous voyez qu'elle était branchée sur un ampli, cette guitare. Et déjà, au départ, c'est un instrument assez rare. C'est un modèle de 1959.
Ah
c'est
bon
un grand luthier qui l'a fabriqué. C'est le luthier Martin. Quand vous êtes dans les magasins de guitare, en général, les Martin, c'est celles qui sont tout en haut, qu'on peut le moins toucher.
Parce et qui sont les plus chères.
Ce modèle-là, en plus, il a été fabriqué qu'à 300 exemplaires environ. Tout ça pour vous dire qu'elle est effectivement chère à la base. Et forcément, si vous ajoutez la dimension Kurt Cobain en plus, bah, ça peut vite affoler les compteurs. Je vous précise d'ailleurs que c'est une guitare pour droitier. Je vous dis ça parce que Kurt Cobain, il était gaucher et il en jouait en gaucher. Il avait inversé les cordes un peu comme Jimi Hendrix. Ce qui donne aussi la valeur à cet instrument, c'est le disque, hein, tout simplement, un petit unplug. On est très très nombreux à l'avoir chez nous. Faut dire aussi qu'à l'époque, c'est un concert un peu miracle parce que Kurt Cobain, il n'a pas du tout envie de faire cette émission.
Ah non ?
Bon, je vous laisse imaginer un peu les relations tendues, la rencontre de deux galaxies quand vous avez d'un côté les patrons de MTV et
oui,
de l'autre
ça,
côté,
c'est ça.
Vous avez Kurt Cobain. Ils finissent quand même par se mettre d'accord. Il y a de très beaux moments dans cette émission. Et puis, je pense aussi que c'est dû au fait que Kurt Cobain, il est à peu près sobre ce soir-là. Je vous dis ça parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de concerts de Nirvana qui étaient à peine audibles, tellement Kurt Cobain était défoncé, était malade à l'époque. Cet album, faut savoir également qu'il a été vendu à plus de 6 millions d'exemplaires.
Oh. Oh là là.
Mais c'est un album posthume.
Et oui.
Bah oui, parce que ouais. Kurt Cobain, il s'est donné la mort 5 mois après l'enregistrement de cette émission, à l'âge de 27 ans. Je ne vous refais pas le coup du Club des 27.
Tous
les artistes qui ont disparu à 27 ans, les connaît tous, Hendrix et les autres. Tout ça pour vous dire qu'elle est évidemment très chargée en histoire, cette guitare. Alors, je pense que vous allez me poser la question, parce que c'est toujours pareil dans cette émission. Je me suis renseigné sur le
Est-ce que vous avez les sous pour l'acheter ? Non, c'est pas ça la question.
Je voulais craquer mon PEL, mais Mathieu Noël n'est pas d'accord pour m'accompagner. Le record aux enchères pour une guitare, c'est une Stratocaster noire, et c'est celle du guitariste de Pink Floyd, David Gilmour. Elle était partie, cette guitare, l'an dernier, à près de 4 millions de dollars.
Oh,
je vous rappelle,
oui,
pour Kurt Cobain, la mise à prix, c'est 1 million. Allez, moi, j'en sais Paris, je pense qu'on va dépasser les 4.
Oh, ah, vous pensez qu'on va dépasser les 4
bah,
ah,
oui, puisque
ouais.
L'autre, c'est des 4 millions. Je pense que Kurt Cobain, ça va être au moins 8 millions de dollars. Je le dis, je prends l'engagement aujourd'hui au micro d'Europe 1.
On prend les paris. Ouais. Et puis, pour l'anecdote, ça, vous n'allez peut-être pas me poser la question, mais je me suis renseigné aussi. La veste en laine informe que porte Kurt Cobain le soir du concert. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand cardigan. Eh bien, il a été vendu aux enchères, lui aussi. Il était parti à l'époque à un peu plus de 330 000 dollars.
Ah, ouais, ok. Donc, 12 millions pour la guitare. Ok. Le cardigan pourri,
parce que... Oui, parce que si vous voyez le cardigan, vous vous souvenez de la scène dans Le Père Noël
est une ordure.
Bah voilà, pour descendre des poubelles, c'est idéal, quoi. Si t'es pas Kurt Cobain, ça n'apporte rien.
Ouais. Je précise aussi, les amis, que la guitare est vendue avec son étui.
Bon, ah, c'est important.
Là,
ouais.
Quand même.
Ouais.
Mais c'est un étui qui est décoré par Kurt Cobain, donc c'est encore un étui un peu particulier.
D'accord.
Voilà. Et puis alors... Vous, je sais pas, mais moi, je pensais à un truc énorme. Tout à l'heure, vous parliez de Benjamin Biolay qui voulait reprendre Big Bisou.
Ah,
imaginez, on achète la guitare de Kurt Cobain, on la donne à Benjamin Biolay.
Et il reprend Big Bisou.
Et il reprend Big Bisou. Je pense qu'on peut toucher au
sublime. Ça serait la classe.
Merci beaucoup. Vous n'aviez pas fini, Jean-Philippe. Oh, vous chantez bien, dis donc.
Merci. C'est le confinement, ça m'a un peu atteint.
Merci beaucoup Jean-Philippe, et je précise à tout hasard, hein, pour les auditeurs d'Europe 1, que je mets en vente personnellement une flûte à bec qui m'a appartenu, avec laquelle j'ai réalisé aussi plusieurs concerts à l'école primaire et aussi au collège. Voilà, ça a une certaine...
L'équipe est sauvage, 16h-18h sur Europe 1.
L'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage, une compétition qui se poursuit avec Mathieu Noël, Eva Rock et à présent Hélène Cole, qui a choisi de revenir cette semaine sur les frasques de Ramadis, le roi de Thaïlande, qui décidément n'a pas vécu le confinement comme les autres.
C'est une compétition qui ne connaît aucun temps mort, aucune trêve. Chaque après-midi, qu'on soit confiné, déconfiné ou reconfiné, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Parmi eux, désormais, nos correspondants à l'étranger. Des concurrents redoutables, même si certains comme Hélène Kohl en Allemagne sont à l'étranger depuis si longtemps qu'ils sont parfois un peu déconnectés de l'actualité française et surtout, concernant Hélène, du showbiz français, comme on a pu le constater vendredi.
Comment il s'appelle là, le frisé de la télé là, qui fait de l'histoire? Stéphane Bern, voilà, c'est ça.
Oui, le frisé qui fait de l'histoire, c'est Stéphane Bern. Mais sinon, vous situez Michel Drucker quand même, Hélène.
Oui, ça va encore, ça.
Alors, Hélène, vendredi, vous avez tenté une chronique un peu intello, un peu haut de gamme sur la vie politique allemande.
Oui.
Là, vous m'avez dit hors antenne, fini de déconner, aujourd'hui, je suis là pour gagner, je ressors Ramadis. C'est donc le troisième épisode du feuilleton Ramadis. On rappelle de qui il s'agit déjà, Hélène?
Oui, alors c'est le roi de Thaïlande, il a 67 ans et il adore la Bavière. Dès qu'il peut venir en Allemagne, il vient. Et donc, c'est donc là qu'il a choisi de se confiner, effectivement. Voilà.
Et alors, il est rattrapé dernièrement par ces scandales.
Oui, parce que nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser au confinement de Ramadis. Plusieurs journalistes et photographes du Bild Zeitung sont sur le coup. Le Bild, c'est le grand tabloïd allemand. Parce qu'il faut savoir que personne n'a vu le roi, en fait, depuis qu'il est arrivé en Allemagne. Donc tout ça est très, très, très mystérieux. Il y a quand même quelques informations qui fuitent, notamment de la part des rares personnes qui rentrent dans cet hôtel de Garmisch-Partenkirchen. Alors il y a des fournisseurs, des jardiniers, un plombier notamment. Et donc on sait que le roi et sa suite se sont installés au quatrième étage de l'hôtel. Et d'après quelques témoins, toute la déco a été refaite à son goût, assis avec des meubles et des bibelots qu'il a rapportés de Thaïlande. Alors évidemment, et c'est pas la récup de vide-grenier et des babioles, ce sont là des coffres sertis de pierres précieuses, des miroirs plaqués or, etc. Un mini Bangkok sur fond de décor alpin, alors pourquoi pas. Et puis il y a aussi une salle spéciale pour ses 20 favorites, salle du plaisir, nous dit-on. Et ça serait, c'est surtout pour son plaisir à lui, parce qu'il savait déjà qu'il avait érigé son caniche au rang de maréchal de l'armée de l'air, hein, je vous l'avais dit il y a quelques temps. Et bien ses concubines aussi ont reçu des titres militaires sur le modèle du SAS britannique.
Mais non.
Et certains auraient même des numéros S01, S02, etc.
C'est vraiment affreux.
Ah non, mais exactement. C'est affreux. Surtout
ça nous fait sourire, mais c'est affreux, franchement. Hein. Ouais.
Exactement, parce que ces jeunes femmes ne seraient pas toutes volontaires pour intégrer le harem royal. C'est vraiment le bon vouloir de Sa Majesté. En plus, le roi est une personne plutôt violente en privé.
Il est vraiment tout
on sait
faire.
Notamment qu'il fait fouetter ses sujets.
Ah oui.
Donc c'est vraiment problématique pour ces jeunes femmes.
Et il les fait fouetter, on peut le dire, dans un cadre qui n'est pas dans un cadre ludique, comme Eva avec ses amants.
Hein. Oui,
c'est
voilà,
vraiment. Le problème du consentement se pose. Et il peut faire tout ça en toute impunité en Allemagne, Hélène, c'est ça qui est vraiment étonnant.
Alors en théorie, non, mais il est ici avec un statut diplomatique, donc il est intouchable. Et puis comme en théorie, personne ne rentre dans l'hôtel, c'est difficile de prouver quoi que ce soit. Alors les militants des droits de l'homme ont tout de même organisé une manifestation devant l'hôtel la semaine dernière, à la faveur des premières mesures de déconfinement ici. Donc c'est pas possible de faire un vrai cortège, etc. Ils ont organisé à la nuit tombée une sorte de happening artistique en projetant sur la façade de l'hôtel des slogans hostiles au roi, en allemand, en anglais et en thaïlandais. Il y avait aussi des photos d'opposants. Même chose sur la façade aussi de l'hôtel de ville de Garmisch-Partenkirchen, parce que évidemment les autorités allemandes sont un petit peu complices.
Bah oui.
Elles ont quand même bel et bien autorisé le séjour de Ramadis alors que les frontières étaient fermées et que les hôtels étaient fermés. Mais bon, évidemment, le roi et sa suite de plus de 100 personnes, ça représente quand même une belle rentrée d'argent et c'est pas négligeable pour le secteur qui est ce moment totalement à l'arrêt, le secteur du tourisme.
Oui, mais on peut avoir une éthique aussi, Hélène, c'est possible,
c'est
vous direz ça aux dirigeants allemands. Hein.
Ouais.
Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'argent, Hélène, la presse internationale a aussi enquêté sur l'origine de la fortune du roi. Et c'est pas joli non plus.
Effectivement, en fait, le roi aurait trouvé un moyen assez simple pour entretenir son train de vie. Il pille la caisse de la loterie nationale thaïlandaise.
Ah, tiens.
En fait, ça fait des années qu'il truque les résultats du.
Oh non.
Voilà, il truque les résultats du loto pour gagner à coup sûr dès qu'il a besoin d'argent.
Mais c'est pas possible, Hélène, ça.
Si, alors ça a été prouvé parce que c'est comme ça qu'il a financé la construction de sa villa à Phuket il y a 11 ans. Et l'affaire avait été révélée par les services secrets américains. Et il y avait même eu un procès à Bangkok. Alors à ce moment-là, il n'était pas sur le trône, il était juste dauphin. Et il y a eu des condamnations, alors pas pour lui évidemment, et donc il a pu ensuite, une fois qu'il est monté sur le trône, continuer ses petites combines. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il s'est installé dans cet hôtel bavarois et pas dans sa propre résidence de Bavière pour le confinement, c'est aussi de cet ordre-là, parce que officiellement il est juste touriste ici, alors que s'il était dans sa villa, il aurait été sans doute obligé de payer des impôts.
Oh, voilà. Bah oui, non, mais il faudrait pas qu'il paye des impôts non plus quand même.
Incroyable. Même un scénariste ne pourrait pas écrire une telle histoire.
On peut pas l'imaginer, ça serait trop gros, tout simplement.
Ouais.
Merci beaucoup, Hélène Kohl. Un dernier mot.
Bordel.
Donc,
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage.
Jusqu'à 18h, vous écoutez l'équipe Sauvage, les meilleurs moments. On va retrouver Mathieu Noël et la chanteuse Imani dans un instant. En attendant, voici une nouveauté sur Europe 1, Voyou avec les humains.
T'as fait le tour de la ville et tout le tour de la planète. T'as mis le pied dans des îles où t'étais analphabète. T'en as vu passer des styles de filles et de garçons. Et t'en as croisé des bribes de vie et d'horizon. Mais un beau voyage, c'est la prison. Au milieu des vagues d'humains de maison, tu traînes ta trogne au gré des horaires et des saisons. Après quatre vols, c'est pas de bol. Chez elle, c'est la nuit, c'est d'un ennui. T'es seul au bout du planisphère et seul au bout du fil et de ta vie. Tous ces beaux voyages, c'est la prison.
Sur Europe 1, Voyou avec les humains.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage avec Mathieu Noël et Eva Rock, sa complice. Et si vous étiez à l'écoute cette semaine, vous le savez, jeudi, on a pris des nouvelles de la chanteuse Imani. Elle nous a notamment expliqué pourquoi la scène ne lui avait pas manqué et que le confinement l'avait ramenée sur Terre.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans oublier d'en rire, 2 heures également pour apprendre à mieux connaître une personnalité. Aujourd'hui, une artiste qui a accepté d'être avec nous en ligne car elle avait été bluffée par mon interview la dernière fois.
Oula.
Une interview qui avait été énormément bossée en amont et ça s'était bien senti. Et j'avais été aussi assez soutenu par mon camarade Patrick Cohen.
Une seule corde manque à votre arc, une comédie musicale. Vous qui adoriez les comédies musicales quand vous étiez petite.
C'est pas vrai. J'aime pas du tout. On est dans une histoire, puis finalement, il y a un mec qui se met à chanter. Ça me gonfle un peu. J'aime pas trop la comédie musicale. Vraiment.
Vous avez des projets musicaux?
J'ai des projets musicaux, mais pas du tout de comédie musicale. Oui, j'écris un spectacle.
Qu'est-ce qu'il y a, Patrick?
Pourquoi vous riez, Patrick?
Non, parce que vous insistez.
Imani, merci d'être là quand même.
Oh là là.
Malgré nos errements sur la comédie musicale, la dernière fois, on n'avait pas compris la différence entre une comédie musicale et un nocturne à cordes de violoncelle. On n'avait pas compris que c'était pas la même chose exactement. Alors, on a parlé de ce spectacle en préparation. Il y a quelques jours, vous avez posté sur Instagram la photo de votre premier album, The Shape of a Broken Heart, album sorti il y a 9 ans déjà. Parfois, on a le sentiment que vous avez du mal à réaliser votre succès. Vous dites, j'ai du mal à croire que c'est ma vie. Est-ce qu'une période comme le confinement, c'est le moment de prendre du recul et de réaliser que oui, c'est votre vie. Oui, vous êtes une star.
En fait, pas du tout.
Pas du tout.
Ce qui est génial avec le confinement, c'est que ça m'a bien ramené sur Terre. Que si, j'étais en train de prendre la grosse tête et m'envoler. Là, le confinement, ça m'a remis dans la réalité, dans la vie. C'était génial. Non, le confinement, non. Là où, par exemple, j'avais une nounou qui m'aidait avec le gamin, et de temps en temps, voilà, elle fait le ménage, ben bah, là, il n'y avait pas tout ça. Hein. C'était génial, parce que je me suis rappelé ce que c'était que de se lever tôt, récurer son four. Ouais. Et voilà, donc, non, le confinement, ça m'a aidé à me recentrer sur. Sûrement même sur la vie de famille, c'est des banalités ce que je veux dire, mais en fait on travaille comme des fous, on est plus dans le management de la maison, de la maison, alors il faut qu'il se lève, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il se dépêche, à manger, et en fait finalement on ne se fréquente plus, même avec mon mari c'est compliqué, on croisait, et donc le confinement ça nous a un peu forcé à nous regarder, à nous dire mais en fait on vit un peu comme des cons, et donc c'était bien cette petite mise au point.
Imani, ce que vous venez de dire me parle tellement d'un point de vue personnel, je ne peux même pas vous dire à quel point, mais moi c'est grâce à la serpillière.
Vous êtes
j'ai des très belles photos de moi.
D'accord.
En train de prendre la serpillière. Imani, vous êtes une artiste engagée, on sait, vous êtes notamment l'ambassadrice d'Endomind, l'association française d'action pour l'endométriose, et récemment, comme 200 personnalités, vous avez répondu à un appel lancé par Juliette Binoche et l'astrophysicien français Aurélien Barraud pour une transformation radicale de la société après la pandémie. Le collectif écrit notamment « Il nous semble inenvisageable de revenir à la normale ». Comment on va faire pour ne pas revenir à la normale, et est-ce que vous êtes confiante, optimiste de ce côté-là?
Je suis consciente qu'on va pas, il faut faire un effort collectif pour parvenir à la normale. Maintenant, quand je vois que les gens font la queue pendant 2 heures pour aller chez Zara le premier jour du déconfinement, j'ai quand même du mal à croire qu'on va y arriver comme ça. Je pense qu'il faut légiférer. Je pense qu'il faut que les gouvernements, enfin, on peut. Je pense qu'il faut déjà faire le changement à l'intérieur de soi, dans sa tête. Ça, c'est sûr. Même moi, personnellement, j'essaie d'apporter des changements dans la manière dont je gère ma vie, ma famille, ma carrière, ma vie. Mais il faut essayer de l'appliquer un peu aux autres. Mais en vérité, s'il n'y a pas des lois qui nous forcent peut-être à consommer moins, à travailler moins ou à consommer mieux, ça va être des changements très, très, très lents. Parce qu'on a été confinés 2 mois, pas 2 ans. Donc, en gros, on a pris des vacances forcées. Très très forcé pour beaucoup. Je pense qu'il va y avoir plein de résolutions d'ivrogne, comme on dit, où on se dit ah bah oui, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela, mais après la vie, si elle reste la même, c'est-à-dire ce rouleau compresseur qui nous force à travailler comme des dingues, parce qu'il faut payer des factures, parce qu'il faut consommer, parce qu'il faut acheter, parce que, bah je sais pas si on va y arriver. Je pense que ce sera encore pire, ce sera une gueule de bois violente, quoi.
Et est-ce que vous êtes inquiète pour le secteur de la culture, pour la reprise des concerts? Est-ce que le gouvernement va suffisamment soutenir les artistes au moment de la reprise? Est-ce que vous vous en souciez au quotidien? Vous êtes en contact avec, je ne sais pas, des gens, le gouvernement?
Je suis en contact avec personne au gouvernement, mais par contre, oui, je m'inquiète pour la culture en général, je m'inquiète pour les gens, pour les jeunes, parce que de toute façon, quand il y a des crises, c'est toujours la culture qui morfle en premier, parce qu'on nous dit que c'est pas tellement utile, c'est moins utile que manger, quelque part, ils ont raison, mais en même temps, on voit bien que la culture, ça touche les gens dès qu'il y a vous voyez par exemple la mort de Johnny Hallyday, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand il est mort, ça a touché, ça a affecté tellement de gens qu'on s'aperçoit bien que la musique, la culture, c'est très important pour les gens. C'est peut-être pas aussi important que boire et manger, mais c'est pas loin derrière. Et donc, il faut qu'effectivement, le gouvernement tienne ses promesses. Et 2, si on va changer la politique écologique, économique, ben, il faut inclure la culture là-dedans. Et il faut que c'est une place prédominante dans la vie des gens, parce que c'est important. Et d'ailleurs, en temps de guerre, ou quand vous rentrez dans des régimes de dictature, la culture, c'est la première chose qu'on veut modifier, parce qu'on sait que ça a un véritable impact sur la manière de penser des gens.
Oui, ça a un impact aussi économique, parce qu'on sait que grand nombre de manifestations culturelles soutiennent aussi le tourisme, des villes, etc.
Exactement.
Donc, il ne faut pas s'arrêter à simplement le confort de quelques artistes sur scène ou au cinéma. Quoi. Ça touche énormément de gens. Voilà.
Oui, en plus en France, par exemple, la France, on est le pays qui a le plus de festivals.
Exactement,
je crois,
exactement.
Et on est vraiment gâtés. Donc, il y a des très, très gros festivals. Et puis, il y a des tout petits dont on n'entend pas parler, mais quand même qui
soutiennent
l'économie locale pendant 6 mois, tu vois, un été. Et ça aussi, faut pas les oublier. Et y a tout le monde. C'est vrai qu'il y a les artistes, mais il y a les techniciens. C'est-à-dire, les artistes, ils peuvent monter sur scène. S'il n'y a pas le technicien pour brancher le micro, il ne peut pas faire son boulot.
Ouais.
Donc, il y a toute la chaîne alimentaire comme ça de la culture à laquelle il faut penser. Et moi, je pense qu'il faut penser tout de suite les dommages. Est-ce qu'on va réouvrir les salles? Comment on va réouvrir les salles? Mais après, il faut penser aussi à l'image globale de qu'est-ce qu'on a fait de la culture aujourd'hui, c'est quoi sa place.
Imani, j'étais en train de repenser à votre projet avec les reprises, les violoncelles, et je me dis qu'il y a peut-être un titre qui manque, on n'a pas la liste intégrale des titres que vous allez reprendre, mais il y a peut-être un titre qui manque.
elle rit déjà parce qu'elle sent la connerie que vous allez dire.
Dans une interview de Télérama l'année dernière, vous disiez que votre chanson d'enfance préférée, c'était Big Bisou de Carlos. Est-ce que vous confirmez déjà cette déclaration, et est-ce que vous confirmez que Big Bisou ne sera pas interprété au violoncelle dans votre prochain spectacle?
Écoutez, ne me challengez pas, parce que je peux peut-être réfléchir à faire Big Bisou ou au moins un clin d'œil, mais oui, quand j'étais petite, attendez, elle était super cette chanson, elle venait avec une chorégraphie, et moi j'ai grandi avec une tribu de frères et sœurs, et donc nous on était là et on faisait Big Bisou sur la main, sur le front, tout ça.
Vous n'allez pas en revenir, Imani, de ce qu'on va vous raconter.
Ah ben, oui, figurez-vous qu'on parlait de Big Bisou le jour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que lui c'est pas sa chanson d'enfance préférée, avec Benjamin Biolay. Et Benjamin Biolay nous a promis qu'il reviendrait pour la dernière de l'Équipe Sauvage, nous faire une cover de Big Bisou. Il nous avait donné un petit avant-goût. Bon, alors c'est encore une ébauche. Hein. C'est Benjamin Biolay, mais il peut faire mieux. Mais il va revenir faire une cover de Big Bisou.
Venez avec lui le 5 juillet.
Et faites-nous Big Bisou. Alors là, ça serait assez lunaire, j'imagine. Benjamin Biolay.
Il faut que je l'appelle, il faut qu'on se contacte. Il faudrait qu'on fasse une version un peu Gainsbourg.
Ah oui,
une version Gainsbourg.
Là, vous faites un truc un peu Gainsbourg
de Big Bisou.
Sur Big Bisou.
Nous, on fait les cœurs.
Alors ça, Eva, je vous arrête tout de suite. Si on a Imani et Benjamin Biolay qui prennent Bisou, nous, on ferme notre gueule.
D'accord,
c'est vraiment ce qu'on fera.
On applaudit.
On se contentera d'applaudir pour ne pas gâcher ce moment de radio. Est-ce que vos enfants, ils chantent, Imani? Est-ce qu'ils vont reprendre le flambeau ou ça ne les intéresse pas du tout?
Alors, je ne sais pas s'ils vont reprendre le flambeau, mais alors ils chantent tout le temps. Ma fille de 14 mois chante joyeux anniversaire en permanence.
Ah, bon, ah oui,
même quand ce n'est pas son anniversaire.
Ah bah non, oui.
D'ailleurs,
quand elle se lève à 3h du matin, elle hurle. La seule chose qui la calme, c'est que je chante joyeux anniversaire dans toutes les langues.
Oh, c'est mignon.
Alors, vous ne voulez pas nous chanter joyeux anniversaire dans une langue improbable qu'on ne connaît pas trop?
Ben, en comorien, c'est moi, ma wao. Moi, ma wao. Moi, ma wao. Eva.
Génial.
Il y a peu de journalistes qui ont eu leur anniversaire chanté comme ça par Imani.
Mais c'est marrant parce qu'en vous entendant chanter comme ça, on s'aperçoit qu'il y a un ton un peu d'une berceuse en fait. Joyeux anniversaire.
C'est vrai.
Alors que je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Ouais.
C'est la mélodie la plus efficace du monde.
Ah oui, c'est vrai, on est d'accord. Ouais.
Eh bien,
je me demande qui est-ce qui a les droites là.
Bah, en tout cas,
oui, c'est vrai,
il doit vivre dans un sacré château à Miami, je pense. En attendant de découvrir votre nouveau spectacle, je conseille à nos auditeurs de se procurer très vite votre album Live at the Casino de Paris qui lui est disponible. Merci beaucoup, Imani, d'avoir pris un moment pour être avec nous cet après-midi.
Je vous en prie.
À très bientôt.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël vous accompagne tous les jours sur Europe 1. La compétition continue dans un instant avec Fred Goati qui nous révélera les secrets de l'album Thriller de Michael Jackson après Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 souvent en désaccord avec ce qui était considéré comme populaire à son époque, mais il a toujours trouvé son public. En avril 1965, It's Not Unusual sort aux États-Unis. Et bien, ce sera son premier succès transatlantique. Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h39, nous restons en compagnie de Mathieu Noël et de son acolyte Eva Rock. Chaque jour, vous le savez, les journalistes d'Europe 1 s'affrontent avec des sujets originaux, insolites ou émouvants pour gagner les faveurs du public, de l'invité de Mathieu Noël hors confinement et de son équipée sauvage. Eh bien, notez que le vendredi 8 mai dernier, le grand gagnant, c'était Fred Goati avec cette chronique.
Vous cherchez un programme qui soulage vos zygomatiques mais sans effet secondaire néfaste pour votre cerveau? Je crois que vous êtes au bon endroit. Vous écoutez l'équipée sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Et l'heure est venue d'écouter la chronique de notre ultime concurrent du jour, Fred Goati, directeur de Jazz Magazine, qui nous parle aujourd'hui de Michael Jackson, un artiste qu'Eva adore et qu'elle est souvent frustrée de ne pas pouvoir écouter sur la longueur pour d'obscures raisons.
Elle est géniale cette chanson. On ne va pas l'écouter ?
Non, parce qu'on est pressé. Après, il faut que je prenne une douche. Je ne me suis pas lavé hier.
Et voilà.
Oui, enfin, voilà. Bref, non, mais là,
c'est
aujourd'hui,
bien de dire
je suis
la
propre.
Vérité quand même, des fois.
Là, pour une fois, je suis propre. On peut donc parfaitement prendre le temps d'écouter Michael sur la longueur. Et plus précisément, un album de Michael en particulier, n'est-ce pas, Fred ?
Oui, alors, Mathieu, Eva, mesdames, messieurs, chers auditeurs, un célèbre acteur américain a quelque chose à vous dire.
This is Vincent Price. Michael Jackson is the Thriller.
Ah, génial!
Quelle voix!
Ah, oui.
Quelle voix et quel rire surtout! Voilà, voilà une des nombreuses idées géniales de Michael Jackson et Quincy Jones. Demander à Vincent Price, puisque c'était lui, de s'esclaffer comme un diable qui sort de sa boîte et de poser une sorte de rap gothique dans Thriller, la chanson, le septième, vous vous rendez compte, le septième 45 tours qui avait été extrait fin 83 de l'album du même nom. Plus grand succès, faut-il le rappeler, de tous les temps, avec plus de 60 millions d'exemplaires vendus. Alors, pour le clip de Thriller, Michael Jackson avait décidé d'embaucher un certain John Landis.
On en parlait la dernière fois. Comment est arrivé le metteur en scène des Blues Brothers dans cette histoire, Fred ?
Très bonne question. Alors, en 1981, John Landis avait sorti un film d'horreur, Le Loup-garou de Londres, dont le point d'orgue, le climax, était une sorte de métamorphose terrifiante que Michael Jackson avait adorée. Il avait donc appelé John Landis sur le champ. « Monsieur Landis, moi aussi je veux être un monstre, je veux être un loup-garou !» Oui, bon, calmez-vous, d'accord. Bon, résultat, le clip le plus terrifiant de l'histoire de la pop musique, un véritable court-métrage en fait de plus de 13 minutes, vous vous rendez compte, avec plusieurs rebondissements, des twists comme on dit aujourd'hui, mm-hmm. Et avec...
Une femme. Ouais, oui.
Et oui, parce que John Landis avait remarqué qu'il n'y avait jamais de femme dans les clips de Michael Jackson.
Tenamment.
Il voulait qu'il y ait un peu de sexe, et il a imposé la jolie Ola Ray, qui venait d'ailleurs de poser dans Playboy, ce qui avait un petit peu contrarié l'entourage de notre jeune ami Michael. Revenons au clip de Thriller, parce que franchement, on ne s'en lasse pas. La preuve, déjà plus de 600 millions de vues sur YouTube. Oh Michael, qu'est-ce qu'il y a ? Tu te sens pas bien ?
C'était effrayant.
T'as toujours aussi peur.
Ah mais ouais, mais moi j'ai un sou. Bah, j'étais petite, hein. Je m'en souviens vraiment. Hein.
Oh. On se souvient surtout que Michel Drucker avait diffusé le clip de Thriller dans Champs-Élysées et avait reçu des tonnes de lettres de téléspectateurs indignés.
Mais souvenez-vous quand même, à cette époque, les films et les séries d'horreur n'étaient pas encore entrés dans la culture populaire.
Ah bah ouais.
Et pour les plus jeunes, et même les moins jeunes à vrai dire, découvrir Thriller à une heure de grande écoute, c'était quand même assez perturbant. Hein. Et ceux qui disaient, le clip de Thriller, même pas peur, je vous jure que c'était les mêmes qui vous juraient qu'ils n'avaient jamais, qu'ils n'avaient pas pleuré à la fin de E.T. Ça, c'est irrésistible.
Ah ouais.
Coup de génie de mettre... On entend le bruit des pas de danse et des claquements de mains, c'est fantastique. Alors, c'est grâce à ce clip donc, et à ceux de Billie Jean et de Beat It que les ventes de Thriller, l'album, ont atteint des proportions évidemment stratosphériques et que la chaîne musicale MTV s'est dit que passer des clips d'artistes noirs, ce qu'ils refusaient de faire au départ, c'était peut-être pas si mauvais pour les audiences. Et oui, MTV ne voulait pas passer des artistes de clips noirs au départ. Au fait, vous savez que la chanson Thriller devait s'appeler Starlight ?
Ah non,
Starlight, ouais, bof, bof, pas très original comme titre. Ouais. En se réveillant un matin, le génial auteur et compositeur Rod Temperton, qui a écrit Thriller, s'est dit non, pas Starlight, Thriller. Il a réécrit les paroles et le reste, comme on dit aux États-Unis, bah, le reste fait partie de l'histoire. Cela dit, les amis, ça vous dirait peut-être d'écouter un petit extrait de Starlight. Vous allez voir, c'est assez troublant.
Non.
Parce qu'on a l'impression de se retrouver dans un lieu familier dont on aurait, en quelque sorte, changé le décor. Alors, jusqu'ici, tout va bien ?
Ah oui, là, ça va.
Non.
Mais c'est quoi ? C'est une bande démo ?
Ah oui, c'est une démo qui n'est jamais sortie officiellement. Et c'est donc la première version de Thriller. Ça s'appelait encore Starlight. Je pense que Michael Jackson était influencé par Star Wars.
Réécoutez l'intro de
Don't Stop Tilly Gadinoff. Mmh. On oublie souvent qu'il part de la guerre des étoiles de Star Wars, de la Force. Voilà. Alors, Thriller, pour conclure, ça a révolutionné l'industrie du clip, de la musique et du marché de la vidéo. Alors qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, Michael Jackson voulait tout simplement se transformer en monstre.
Merci beaucoup Fred Goetti. Une analyse à chaud de votre performance.
C'était super, j'ai adoré.
Merci Fred pour votre franchise.
Europe 1, 16h, 18h.
L'équipe est sauvage. Yep. 16h, 18h sur Europe 1.
L'équipe est sauvage.
Divertir et informer, telle est la mission de Mathieu Noël. Chaque après-midi de 16h à 18h sur Europe 1. Et pour mieux vivre le confinement, vous le savez, dans l'équipe Sauvage, on a toujours pensé à la jeunesse avec Eva Rock, qui nous a sélectionné d'ailleurs cette semaine un programme pour les petits et une série pour les ados.
On parle beaucoup du déconfinement, mais personnellement, je n'oublie pas ceux d'entre vous qui ont des enfants qui n'ont pas pu reprendre l'école et qui donc continuent d'assurer la classe à domicile. Je pense notamment à ceux d'entre vous qui ont des enfants qui sont aussi peu concentrés, indisciplinés et chiants que moi. Comme... avec Alain Sirou, lorsqu'il tente de me donner un cours sur l'origine des trous noirs.
Je dirais qu'on est quand même extrêmement tranquille, parce que même si c'est proche du système solaire, 1000 années-lumière, c'est quand même pas la porte à côté, il faut l'avouer.
Pardon, j'étais en train de recoller mon casque qui s'était détaché. Si vos gosses sont aussi peu attentifs que moi quand vous leur faites l'école à domicile, cessez de vous fatiguer, mettez-les devant la télé. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, pas vrai, Eva ?
Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas vu la une de ce journal où c'était un enfant qui parlait, qui disait « Ah ben la maîtresse, elle explique mieux que les parents
». Bah oui, c'est un métier, en fait, on le découvre.
Exactement.
Un peu.
Alors un programme pour les petits et une série pour les ados, voilà le menu du jour sur France.tv, vos piou piou vont adorer Dimitri. Alors Dimitri, c'est un petit passereau qui est très mignon, très malin. Il vit en Afrique. Il est entouré de Titi, c'est la fourmi, Oko le zèbre ou encore Phil la suricate. Et puis il y a la grande Makeba, celle qu'on respecte, qu'on écoute, c'est une girafe. Et Dimitri a entendu Makeba dire « Si les fourmis se rassemblent, elles peuvent soulever un éléphant ». Or, le petit Dimitri, il va constater que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et Makeba va lui expliquer pourquoi.
Dire que plusieurs fourmis peuvent soulever un éléphant, c'est une façon de parler. C'est un proverbe.
Un proverbe ?
Et ce proverbe veut dire que même si on est petit, comme toi par exemple, mais qu'on se met à plusieurs pour faire quelque chose, on y arrive.
Ah, j'ai compris !
Alors je suis fan de ce dessin animé. D'abord par la qualité de l'animation, c'est très beau, c'est signé d'une équipe franco-suisse. Et puis par la qualité du message aussi, vous venez de l'entendre en quelques phrases, votre enfant par exemple peut comprendre le sens du mot proverbe. Les épisodes sont centrés sur des valeurs d'entraide, de solidarité, d'altruisme. Ils mettent également à l'honneur les liens d'amitié. Et tout ça dans un décor de savane africaine avec ses animaux, ses baobabs. L'occasion pour vos enfants quand même de découvrir un ailleurs souvent inconnu et puis de vivre les aventures de Dimitri au rythme de la musique africaine. C'est une merveille de dessins animés, c'est à voir et à revoir sur France.tv.
De toute façon, la qualité était assurée par le fait qu'il s'agit d'une équipe franco-suisse,
voilà,
vous l'avez signalé.
J'espérais que vous alliez relever ce point.
Effectivement, ça ne pouvait être que bon. Vous nous aviez promis aussi une série pour ados, Eva.
Oui, c'est à voir sur Netflix, ça s'appelle Outer Banks. Alors c'est le nom du lieu où se déroule cette série. On est en Caroline du Nord, c'est un décor paradisiaque, hein. Chapelet d'îles magnifiques, mais dans les Outer Banks, on dit, il y a comme un proverbe aussi, où on dit soit on a deux maisons, soit on a deux jobs. Vous comprenez qu'il y a d'un côté les riches dans des baraques sublimes et de l'autre des pauvres qui tentent de survivre en travaillant notamment pour les riches. Et bien c'est le cas de John B. C'est un ado d'une quinzaine d'années dont le papa a disparu en mer 9 mois auparavant. Et avec ses amis, alors il a autour de lui Gigi qui est un surfeur, Pop l'intello et Kiara, une fille assez maligne et craquante. Et bon, il apprend à vivre comme un adulte, il adore surfer et puis prendre le bateau pour naviguer dans les marées. Et jusqu'au jour où, au lendemain d'une tempête, son embarcation va buter sur un bateau qui a coulé. John et sa bande décident d'aller explorer cette épave et le jeune homme y trouve un objet.
Wow, alors là, bien joué les gars. On a trouvé une boussole.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça vaut que dalle ce truc.
C'est à mon père ce truc.
Et oui, cette boussole, elle est à son père et va débuter alors une chasse au trésor parce que cette boussole pourrait bien emmener John et son trio sur les traces d'une autre épave, un navire qui a coulé au 19e siècle avec à son bord des tonnes d'or. C'est une très bonne série pour ados avec son cortège alors d'histoires d'amour, de découverte de la sexualité, de fêtes alcoolisées, de drogue. Bon, ça c'est classique dans les séries pour ados, mais il y a deux dimensions supplémentaires que j'aime beaucoup. D'abord la chasse au trésor qui apporte le côté vraiment grande aventure à la série, et puis cette dimension sociale dans l'opposition riche-pauvre. C'est parfois un tout petit peu caricatural, il y a quelques invraisemblances, mais les 8 épisodes sont extrêmement divertissants, c'est très 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 bien produit. Et alors je dois vous préciser une chose Mathieu, c'est que dans ce coin du monde, tous les garçons sont sublimes, portent souvent leur petite chemise hawaïenne ouverte sur des torses imberbes, et les filles vivent en maillot de bain et dévoilant pour le coup leur corps magnifique. Alors si avec ça vous n'allez pas voir à quoi ressemble cette série, moi j'y comprends plus rien. C'est Outer Banks et c'est sur Netflix.
Ça peut effectivement m'intéresser. Est-ce que c'est une équipe franco-suisse qui a réalisé cette série?
Non, c'est américain, je suis désolée.
Alors il faudra aller vérifier la qualité car on ne sait pas. Il faudra juger sur pièce. Ouais. Merci beaucoup Eva pour ce conseil.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est notre rendez-vous feel good de l'après-midi, l'équipe est sauvage du lundi au vendredi avec Mathieu Noël, Eva Rock et les journalistes d'Europe 1. Et puis le week-end, on vous offre les meilleurs moments de la semaine, voire un petit peu plus. Place à un nouveau sujet, celui de Jean-Luc Boujon qui a choisi le 8 mai dernier sur Europe 1 de nous parler de ces éleveurs en Ardèche qui ont eu la bonne idée de prêter leurs animaux pour aider les personnes qui souffrent du confinement.
Vous écoutez l'équipe sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1. Et à l'heure d'écouter notre premier concurrent du jour, notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon, on croise tous les doigts. En effet, Jean-Luc, vous nous proposez aujourd'hui des portraits d'éleveuses ardéchoises qui ont décidé pendant le confinement de prêter leurs animaux, canards, poules, lapins. La question évidemment qui se pose si jamais ces éleveuses souhaitent revoir vivants leurs animaux, c'est parmi les gens à qui elles ont prêté, y a-t-il un certain Pouls Olivier ? Car si tel est le cas, il faut là, Jean-Luc, que ces éleveuses se préparent au pire. Le prêt risque d'avoir un côté définitif, les canards et autres lapins ayant déjà été servis par Olivier à ses amis, notamment Eva.
Tu peux m'en faire un sans mascarpone ?
Mais non.
Non, mon pauvre bête, pauvre bête. J'espère vraiment qu'Olivier Pouls, notre expert gastronomique, n'écoute pas cette chronique. Ça pourrait lui donner des idées, Jean-Luc. Hein.
Exactement, mais je ne sais pas si c'est cuisiner le poney.
C'est horrible, arrêtez avec ça.
Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de prêt d'animaux pendant le confinement ?
Je n'ai pas compris. Ouais. Comment on peut prêter des animaux et à qui ?
Oui, effectivement, on sait que ce confinement est très long et c'est donc une entreprise d'Ardèche, Ecozone. Alors, c'est une entreprise qui, en temps normal, s'occupe d'éco-pâturage en milieu urbain, c'est-à-dire d'entretien d'espaces verts par des animaux, par des chèvres, par des moutons, des ânes.
Ah, oui. On en a à Paris aussi, c'est vrai. Ouais.
Voilà. Ils vont dans toute la France, ils partent d'Ardèche, ils ont un centre dans le Nord, ils vont dans toute la France. Simplement, en ce moment, il ne se passe rien. Les animaux sont eux aussi au chômage technique, alors ils sont tranquilles dans leur petit pré, ils broutent, il n'y a pas de problème pour eux. Mais ils ont eu l'idée de prêter leurs animaux à des gens ou à des familles qui souffrent de confinement. Il y en avait au départ dans leur entourage, et puis ensuite ça a essaimé de plus en plus. Et c'est une entreprise qui possède à peu près 1000 animaux. Donc effectivement, il y a des moutons, il y a des chèvres, il y a des ânes, il y a des lamas, il y a des poneys qui sont là.
Ah, des poneys.
Alors il y a des chevaux, des tout petits chevaux. Il faut que ce soit, ils ont des animaux tout petits, voilà. Et donc ces animaux sont, comme je le disais, au chômage technique. Il y a aussi dans la basse-cour, alors eux qui servent pas pour l'activité classique. Il y a des lapins, il y a des poules, il y a des canards, il y a des oies. Et tout ce petit monde est à disposition pour un prêt, donc le temps du confinement. L'idée, c'est d'apporter un peu de bonheur, un peu d'apaisement. Écoutez Marjorie Deruet, c'est l'une des gérantes de l'entreprise Ecozone.
On s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour soulager un peu les gens de ce confinement, parce qu'on se rendait bien compte qu'en famille, avec les enfants, il fallait trouver des choses à faire. Et on s'est dit, c'est peut-être l'occasion pour les gens de pouvoir accueillir un animal sans engagement, sans que ce soit lourd en fait, et juste à un moment où tout le monde a le temps de s'en occuper. Et donc en fait, on s'est dit, nous on a des animaux qui sont sociables, qui ont l'habitude de faire des animations, qui ont l'habitude de changer d'air entre guillemets. Et du coup, on s'est dit, nous on peut faire ça pour eux, puisque de toute façon on les a et qu'on partira pas tout de suite. Allons-y quoi. Du coup, on a proposé accueil un animal, et puis il s'avère que ça a développé des émules et on a énormément de demandes. Mais donc gens qu'on propose autant du lapin que de la poule. Vous pouvez prendre une poule, hein. Mais pour des gens qui n'ont jamais eu d'animaux, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a des œufs à la maison, voilà. Et on s'engage pas parce qu'à la fin du confinement, nous on les reprend.
C'est une super idée. Ouais.
Ouais, Mathieu, Eva, si vous voulez une poule, vous savez où vous adresser.
Ouais.
Donc Eva était plus intéressée, on l'a entendu, par un poney.
Mais bien sûr, dans mon 30 mètres carrés, là, le poney, vous imaginez, bien sûr.
Pourquoi, mais en tout cas, peut-être pour aller à Europe 1, tout simplement,
ça,
pour y arriver. Vous auriez fière allure, Eva, d'arriver sur votre poney triomphal.
Alors, de pour,
pour les gros animaux, Jean-Luc, c'est plus compliqué quand même. Hein.
Oui, effectivement, si vous êtes en appartement comme Eva, le lapin s'impose, poule, c'est pas évident, il faut au minimum un petit jardin. Et si vous avez un terrain plus grand, ça peut être un mouton, une chèvre, un poney, un âne. Il y a des poneys et des ânes vraiment trop mignons, hein, si vous allez sur le site Ecozone. Alors d'abord, on va vérifier que votre terrain soit bien clos. Évidemment, on prend un certain nombre de garanties. Il y a un formulaire à remplir pour vérifier que les conditions d'accueil de l'animal seront bonnes. Et puis ensuite, Ecozone vous livre l'animal. Hein. L'animal est livré chez vous. Et alors, ils sont en Ardèche. Ils ont aussi un centre dans le Nord. Hein.
Et ça marche bien, tout ça ?
Très bien. Tout à l'heure, Marjorie le disait, en un mois, 50 animaux ont été placés. Pas mal de lapins en ville, faut reconnaître. Et puis, par exemple, une ânesse et son petit de 4 mois qui ont élu domicile près d'Aubena, chez Johan, qui a une petite fille de 2 ans qui s'appelle Cléa. Écoutez.
Nous, on a accueilli 2 ânes, une ânesse et son ânon. Elle s'appelle Samantha, la maman, et Kaline, le bébé. Ça se passe super bien. Elles sont super sympas. Elles sont vraiment, c'est vraiment agréable. En plus, pour la petite, ça fait un peu de changement pendant le confinement. C'est vrai que du coup, ça lui permet d'aller voir les ânes, de leur apporter à manger, de leur apporter des pommes, de l'eau. Enfin, ça apprend à s'occuper aussi des animaux. Après, on a déjà des animaux à la maison. Mais voilà, c'est vraiment, c'est un petit moment de changement. Un moment de bonheur, je trouve, à la maison. Oui, elle demande où ils sont. Non, mais en plus, ils sont très doux, donc elle peut approcher l'ânesse, lui faire des bisous, des câlins, ou c'est quand même très, très agréable.
C'est trop
mignon. Où ils sont les ânes ? Bah, t'as qu'à écouter l'équipe est sauvage, tu les retrouveras pareil. Hein. Alors, c'est très joli tout ça, mais il y aura un moment, difficile.
Mais ouais.
Il y aura un moment terrible.
Oui, il faut le préparer parce que c'est limité dans le temps, mais les parents sont là pour préparer les enfants au moment où l'animal devra partir, ça va se produire dans quelques jours ou quelques semaines pour le petit âne, mais c'est quand même une idée qui apporte énormément de bonheur dans ce moment vraiment un peu compliqué.
Ouais, c'est vraiment très beau, et puis on m'a dit, je me suis un peu renseigné, si vous adoptez un veau, non seulement à la fin il repart, mais vous pouvez l'accompagner à l'abattoir aussi.
C'est vraiment
un bon moment, vous l'aurez suivi de A à Z. Merci Jean-Luc Bougeon.
Il n'y a pas de veau.
Ce moment tendresse. Adieu veau, vache, bougeon.
Oh non.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et l'équipe est sauvage se poursuit juste après les infos de 17h avec Mathieu Noël et l'essayiste moine bouddhiste Mathieu Ricard. Le déconfinement ne doit pas être une excuse pour piétiner l'environnement. Tel est le message qu'il nous a délivré en début de semaine sur Europe 1. Il nous a fait part aussi de ses réflexions, et notamment sur la crise du Covid-19. Et puis la compétition se poursuivra, bien sûr, avec beaucoup de sujets. Par exemple, Mathieu Charrier nous parlera de ses tournages de cinéma qui reprennent, mais dans quelles conditions, il nous le dira. Et puis Farah Kessri évoquera aussi ces animaux héros qui se sont illustrés durant les guerres. Alors à tout de suite et bon après-midi avec nous.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage.
Place à la seconde partie de notre compilation du week-end. Revivez les moments forts de la semaine passée en compagnie de Mathieu Noël, Eva Rock et les journalistes d'Europe 1. La compétition évidemment se poursuit pour remporter le titre de chroniqueur du jour. Au programme de cette prochaine heure, les tournages de cinéma qui reprennent, les projets de vie aussi stoppés net en raison du confinement, avec des témoignages, et puis ces animaux qui sont des héros et qui se sont illustrés durant les guerres, sans oublier les idées recettes d'Olivier Pouls. Et du côté des invités, Mathieu Ricard, il était en ligne avec nous cette semaine.
Bienvenue sur Europe 1 pour 2 heures d'une intense compétition journalistique conçue pour frictionner conjointement vos neurones et vos zygomatiques. Vous écoutez l'équipée sauvage le jour d'après. Déconfinement, jour 2. Beaucoup d'entre vous ont repris le chemin du bureau, redécouvrant ainsi quelque chose que nos corps flasques et mous, lestés de flambis, avaient totalement oublié, qu'on appelait la marche à pied. Forcément, au bout de 300 mètres, vous étiez claqué.
Oh, je suis crevé. Marcher, c'est déjà fatigant. Hein. Et penser en marchant, alors ça...
Oh. attention à ne pas vous mettre dans le rouge. Devoir poser un congé maladie juste après 2 mois de confinement, ça fait très mal vis-à-vis de votre patron. Elle, je sais qu'elle ne fera pas ce coup-là. C'est une sportive émérite qui vient en vélo à Europe 1, la Jeannie Longo de la Baie des Anges. Bonjour Eva Rock.
Comment vous le savez ? Bonjour Parce Mathieu, bonjour à tous.
Comment je le sais, mais vous vous en vantez.
Ah bon ?
Mais oui, largement Eva.
Ah oui.
Donc,
ah,
tout le monde et toute la France est au courant.
Ah oui.
Tout à l'heure, Eva, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir sur les écrans.
Oui.
Mais d'abord, une question personnelle, histoire de voir si je vous présente à notre invité ou pas.
Oula.
Répondez-moi franchement, hein. Levez la main droite et dites je le jure.
Je jure.
Est-ce qu'il vous arrive, Eva, de vous énerver, par exemple contre moi ?
Contre vous, non, mais de m'énerver, oui, ça m'arrive souvent.
Vérifions. Prenons simplement dans l'émission d'hier, par exemple. Les scientifiques d'ailleurs se demandaient comment était-il possible qu'Eva Rock, qui est pourtant dotée elle aussi d'un cerveau, perde à chaque fois.
Oh salaud, pardon, ça m'a échappé.
Bien, donc ça c'est noté. Oui. Eva, vous arrive-t-il de consommer régulièrement ou même occasionnellement des boissons alcoolisées ?
Non.
Oui, vérifions au travers d'une de vos récentes déclarations.
J'ai envie d'un spritz et d'un autre spritz.
Enfin, Eva, est-il vrai que la seule retraite spirituelle que vous ayez jamais entreprise, c'était dans un club Adults Only à Lanzarote ?
Ah non, ça c'est faux.
Comment ça ?
Bah non, j'en ai déjà fait des retraites spirituelles.
Vous avez fait des retraites spirituelles ?
Oui, non.
Vous développerez ça avec notre invité.
Non,
je vous
pas.
Présente Eva, on est ravis de l'accueillir en ligne évidemment, confinement oblige. Bonjour Mathieu Ricard.
Bonjour cher ami.
Nos auditeurs vous connaissent bien, vous êtes le plus célèbre moine bouddhiste français. Vous avez publié récemment un livre dont le message revêt un sens très fort dans la période que nous vivons. Il s'intitule Émerveillement aux éditions de La Martinière avec vos photos, un livre magnifique, on va en parler. Mais d'abord on a envie de savoir comment vous allez Mathieu Ricard. Est-ce que le fait d'être moine bouddhiste vous prémunisse, vous a préparé à une épreuve comme celle qu'on a vécue ou bien vous flippez comme tout le monde ?
En fait, moi, j'ai passé 5 mois au Népal, dans les montagnes. Et de toute façon, j'y passe beaucoup de temps tranquille face à l'Himalaya, une sorte de confinement naturel. De mon côté, tout s'est passé merveilleusement bien. Ceci dit, je m'occupe de projets humanitaires, l'association Karuna Sechen que j'ai fondée il y a 20 ans. Et en Inde, il y a des centaines de milliers de personnes, des travailleurs journaliers qui maintenant crèvent la faim, qui essaient de rentrer à pied chez eux, 300 km à pied. Donc il y a énormément de souffrance, bien sûr. Mais en même temps, moi, personnellement, dans mon ermitage, quand je suis revenu, ben, j'étais parfaitement bien.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Mathieu Ricard qui fait un bout de chemin avec nous cet après-midi. Mathieu Ricard, si mes souvenirs du bouddhisme que j'ai un peu étudié à la fac, alors attention si je suis en train de me tirer une balle dans le pied, si ces souvenirs sont bons, le constat fondamental du bouddhisme, celui qu'a fait Siddhartha, le futur Bouddha, lorsqu'il est sorti du somptueux palais de son père, c'est que tout est souffrance, la souffrance est partout. Est-ce que ce constat sidérant, au sens étymologique du terme, c'est pas justement celui qu'on fait en ce moment par rapport à la pandémie ? On se rend compte que tout, finalement, est extrêmement fragile.
Alors, fragile, sûr. Il est évident que, si vous voulez, le constat de la souffrance, c'est pas une vision pessimiste et noire de l'existence. C'est comme si on disait, un bon médecin voit si vous êtes en bonne santé ou pas. Un constat, bien sûr, c'est de voir que notre façon de vivre n'est pas forcément optimale, que beaucoup de choses pourraient aller mieux, qu'il y a des aspects qui sont extrêmement frustrants dans l'existence, mais qu'il y a des causes à ça. Ça peut être le ressentiment, la jalousie, l'orgueil, l'obsession, et qu'il y a aussi des remèdes, c'est-à-dire qu'on peut libérer son esprit de toutes ces toxines mentales qui empoisonnent notre existence et celle des autres. Donc en fait, c'est un constat très optimiste qu'il est possible de s'affranchir de la souffrance. Mais si évidemment on fait la politique de l'autruche et qu'on ignore que l'on est malade, c'est un problème. Alors c'est un peu le cas de l'homme moderne face à cette épidémie.
Oui.
On a l'impression qu'on est devenu les maîtres du monde, qu'on s'est extrait de la nature, on manipule les gènes, on envoie des gens sur la Lune et brusquement, crac-boum, voilà un petit truc d'un 10 000e de millimètre qui fiche tout par terre.
Ouais.
Alors c'est vrai qu'en Orient, où les gens sont à la merci de la sécheresse, des inondations, des tremblements de terre, etc., la fragilité de la vie est beaucoup plus présente et les gens sont beaucoup moins choqués quand quelque chose de ce genre se passe.
Et donc vous pensez que nous, en tout cas en Occident, ça peut nous aider à retrouver une forme d'humilité par rapport à la nature, qu'on avait peut-être oublié et qui cause notre perte.
Ben exactement. Si vous voulez, la malaria ou le paludisme tue près d'un million de personnes par an, simplement c'est dans les pays pauvres, donc finalement on regarde pas trop près. Et puis il y a des maladies plus sournoises comme le tabac qui tue 6 millions de personnes par an, la pollution 8 millions de personnes par an, mais c'est des choses qu'on ne voit pas. Et là, brusquement, on en prend plein la figure avec un tout petit truc sur lequel on ne peut rien faire, qui touche les grands comme les humbles, les riches comme les pauvres. Et brusquement, on s'aperçoit qu'effectivement, on est loin d'avoir dominé les conditions extérieures. D'où l'importance aussi de mieux vivre ces conditions extérieures en améliorant la façon dont on fait l'expérience des choses, dont on traduit les conditions extérieures, soit en bien-être, soit en mal-être.
Alors le truc, c'est quand même qu'on a vu des bagarres pour du papier de toilette au début du confinement. Est-ce qu'on peut rester quand même optimiste en l'humanité? Est-ce que le bouddhiste est forcément optimiste? Est-ce que le bouddhiste sourit forcément ou est-ce qu'il peut être pessimiste ou désespéré par rapport à la nature humaine?
Alors, c'est interdit non, dans le bouddhisme. Oui, le bouddhiste, vous voulez quelqu'un qui est libéré un peu de tous ses espoirs, ses craintes, le gain, la perte, le plaisir, le déplaisir. Forcément, il a l'esprit plus léger. Il prend moins au sérieux les hauts et les bas de l'existence. Oui. Et puis l'entraînement de l'esprit permet aussi de trouver en soi les ressources intérieures nécessaires pour faire face aux bas de l'existence. On est moins déstabilisé, on se sent moins vulnérable. Et de ce fait, c'est pas moi du matin au soir. Et donc, on s'ouvre davantage aux autres puisqu'on est moins complètement hyper centré sur soi-même.
Vous voyez, Eva, c'est pas vous du matin au
Alors,
soir. Mathieu Ricard
dire,
vous le dit.
J'allais dire. Ah, vous allez Mathieu, vous devriez vous D'accord. remettre au bouddhisme.
Oui, c'est vrai que voilà. ça fait trop longtemps que j'ai étudié le bouddhisme. Je devrais m'y remettre.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage continue dans un instant avec un hommage personnalisé à Little Richard, disparu il y a 8 jours, à l'âge de 87 ans. Ce sera juste après le nouveau Vianney sur Europe 1.
Il est lundi, maudit matin, ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Il n'est jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps.
Pendant le confinement, Vianney à l'instant sur Europe 1. Après quelques mois à se ressourcer, il a choisi de sortir de son silence médiatique en pleine crise sanitaire avec une nouvelle chanson et la promesse d'un troisième album. N'attendons pas sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock, les journalistes compétiteurs d'Europe 1. Et lundi dernier, début du déconfinement, eh ben Jean-Philippe Ballas était en mode rock'n'roll.
Je joue franc jeu avec vous, chers auditeurs, en ce premier jour de déconfinement. À Europe 1, le plaisir de revoir ses collègues n'était pas l'élément moteur qui nous a poussé à revenir en studio aujourd'hui. En ce qui concerne Jean-Philippe Ballas, notre expert musique, qui a eu besoin d'une autre source de motivation. Plus concrète, plus calorique aussi, comme vous allez le découvrir dans cette conversation en antenne jeudi dernier entre donc Jean-Philippe Ballas, Eva et Léla Becti, notre invitée qui les écoutait en loose day.
Moi je reviens lundi, mais je sais pas.
T'es promis de faire un gâteau, alors si tu viens pas.
Franchement, tu es ma principale motivation pour venir.
Allô ? Je vous ai entendu sur les histoires de gâteaux et tout.
Alors Jean-Philippe, vous n'êtes pas présent en studio, vous êtes en ligne avec nous aujourd'hui et vous avez commis une énorme erreur puisque moi, personnellement, j'ai déjà pris deux parts du gâteau sublime qu'Eva a préparé aujourd'hui. Et je peux vous dire que rien que pour ça, ça valait le coup de revenir.
Et je l'ai réussi, hein, celui-là,
il
de gâteau.
Très réussi, on embrasse quand même Cyril Lignac parce que c'est un peu sa recette.
Bah c'est là. Oui, mais il fallait encore la produire
oui,
correctement.
Mais
attendez,
je ne voulais pas minimiser votre,
non,
votre
si
talent, Eva, pas
minimiser.
Du tout. Alors Jean-Philippe, aujourd'hui, vous nous expliquez comment se déconfiner tout en restant rock.
Oui, parce que j'ai fait un rêve étrange ce week-end, les amis. Je vais vous le raconter, c'est un rêve musical. Ça racontait effectivement mon premier jour de déconfinement. Je sortais de chez moi, plus besoin d'attestation, j'étais tout content. Et là, je me dis, je vais danser dans la rue. Et exactement, Dancing in the Street, toujours dans mon rêve, au loin j'aperçois une jolie fille, je m'approche d'elle, et là je me dis tiens, je veux prendre sa main.
Ça c'est pas permis, c'est pas permis.
Ben voilà, et le problème c'est exactement, la fille elle a pas l'air d'accord du tout, elle a un regard méchant, elle me dit allez allez, reste pas si près de moi. Vous me connaissez, j'insiste un peu, j'ai dit allez, m'arrête pas, on s'amuse bien. Et là, la fille me regarde avec un air un peu sérieux, elle me dit t'as pas compris, si je fais ça c'est pour te protéger et c'est pour me protéger parce que si ça se trouve je suis malade. D'ailleurs, à cet instant précis de mon rêve, je remarque qu'elle porte effectivement le même masque que Michael. Forcément, là je fais tout de suite un pas en arrière, pas pour rassurer. Mais surtout, je suis un peu triste parce que j'ai pas envie qu'elle me brise le cœur. Et là, je sais pas si c'est l'ambiance, mais je sens que soudain la fille hésite un peu. Elle se dit, est-ce que je reste ou est-ce que je pars ? Je vous rappelle qu'on est toujours dans mon rêve. Hein.
Oui,
bien
oui.
Sûr que tu restes, que je lui dis à la fille. Toi et moi, nous sommes nés pour courir. Et voilà les amis, que nous arrivons maintenant à la fin de mon rêve, de mon premier jour de déconfinement. Je gambade dans les rues avec la jolie fille en chantant ça. Et vous, je sais pas, mais moi, soudain, j'ai compris. En fait, ce week-end, j'ai rêvé de Little Richard,
oui.
Qui nous a quittés parce qu'il les a tous influencés. Tous ceux que vous venez d'entendre, je vous ai fait un petit catalogue de l'histoire du rock. Ils ont été nombreux à lui rendre hommage ce week-end. Il y avait McCartney, il y avait Mick Jagger, Springsteen, tous les autres. Il avait 87 ans, Little Richard. Et franchement, j'estime que dans une émission qui s'intitule « L'équipe est sauvage », on ne pouvait pas ne pas l'écouter aujourd'hui. Voilà, c'est tout.
J'aimerais bien avoir votre imagination, Jean-Philippe, parce que moi, mes rêves, moi, ils sont tout pourris en ce moment. Si j'ai un rêve comme ça, j'en rêve, si j'ose dire. Merci beaucoup, Jean-Philippe Ballas. Et j'ai entendu votre message vendredi, hein, j'arrête de semer la zizanie dans votre couple. Promis donc, je ne ferai aucune réflexion sur cette poupée gonflable que vous avez achetée sur Amazon.
Ah, oh, mais laissez Mireille Mathieu tranquille.
Ah, parce que vous l'avez appelée. Une promesse est une promesse. Motus et bouche cousue.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Les meilleurs moments, ça continue. En temps de guerre, chevaux, chiens, chats, vaches, ânes, pigeons, des millions d'animaux ont accompagné les hommes, les soldats, les civils, pour le meilleur et le pire. Les hommes ne sont pas en effet les seuls à vivre, à souffrir et à mourir sur les champs de bataille. On en a parlé cette semaine dans l'équipe sauvage avec Mathieu Noël, Eva Rock et Farah Kessri.
J'ai déjà parlé ici, de manière absolument pas autobiographique, je le précise, du chagrin de ces hommes séparés de leur maîtresse durant le confinement. Chagrin colossal, manque vertigineux que connaissent évidemment aussi les femmes privées de leurs amants. Surtout quand il est parti se confiner dans le Perche. Au 53e jour, ces femmes, comme notre veto Farah Kessri, n'en peuvent plus. Bien sûr, il y a Skype, il y a Zoom, mais comme elle me l'expliquait hors antenne...
Le virtuel ne suffit plus.
Allez, J-3, Farah, J-3. Pour vous changer les idées, en ce 8 mai...
Vous allez faire des problèmes avec mon mari, vous.
C'est possible. Et Alain Sirou avec sa femme. J'ai réussi à créer des 4 problèmes en un. Vous nous parlez aujourd'hui, Farah, de ces animaux qui ont brillé en temps de guerre. Car on l'oublie souvent, mais les animaux, ils sont partis à la guerre aussi. On les a envoyés.
On les a envoyés, bien malgré eux, bien sûr. Et c'est vrai que le premier exemple auquel on pense quand on parle des animaux de la guerre, ce sont les pigeons voyageurs, puisqu'ils ont servi de messagers. Surtout, ils étaient vraiment précieux pour envoyer des messages à partir de la France qui était occupée à ce moment-là. Et certains avaient même un petit nom, comme le pigeon Gustave. C'était le pigeon qui a délivré le premier message du débarquement de Normandie.
Et les volatiles ne sont pas les seuls à avoir participé à la Deuxième Guerre mondiale. On retrouve différentes espèces selon les armées.
Oui, durant la guerre, les animaux vont être sur tous les fronts et sur tous les continents. En Europe, on utilisait les chevaux, les mulets, les ânes pour transporter les soldats, mais aussi le matériel lourd comme les chars et les canons. En Afrique du Nord, on se servait plutôt des dromadaires en plus des chevaux, bien sûr. Et en Asie, l'armée anglaise utilisait plutôt des éléphants. Les Russes, eux, se sont servis des élans, savoir que chez les élans, cette espèce a des sabots qui sont beaucoup plus larges que les autres herbivores. Et ce sont des sabots qui... se remplissent de poils, le poil devient plus important en hiver, du coup ça fait comme une sorte de raquette sur la neige et ça leur permettait d'avancer sans encombre aussi bien sur la neige que sur la glace. En fait, il faut savoir que chaque armée utilisait plutôt les capacités d'adaptation naturelle des espèces selon leur environnement et donc selon le champ de bataille.
Et ces soldats à quatre pattes, si on peut dire, notamment les chiens, ont aussi été entraînés pour le combat.
Oui, alors là, il faut savoir qu'en Amérique, les civils ont offert leur animal à l'armée américaine, qui a entraîné des milliers de chiens dans de véritables camps militaires. Ils leur ont appris à retrouver des mines ensevelies, des personnes perdues aussi, mais aussi à signaler la présence d'ennemis. Je rappelle que l'oreille d'un chien capte plus de fréquences que notre système auditif. Nous, on entend les fréquences entre 20 Hz et 20 000 Hz. Le chien, lui, c'est entre 15 et 40 000 Hz, parfois jusqu'à 80 000 Hz pour certaines races. Et l'armée leur a même appris à reconnaître l'image d'Adolf Hitler en regardant des films de propagande allemande.
Pourquoi pour aller le becter?
Pour aller le trouver, on sait jamais. Ils avaient pas mal de scénarios comme ça pour capturer Adolf Hitler et les chiens en faisaient partie. Et il faut savoir que côté russe, c'était quand même un peu plus terrible le sort des chiens, puisque les soviétiques se sont servis de chiens kamikazes grâce à un entraînement. Ces chiens avaient été conditionnés pour aller se ruer sous les chars dès qu'ils entendaient un signal. Et ce signal était le synonyme du repas, puisque à l'entraînement, leur gamelle était cachée sous le char. Donc on leur avait appris, pour aller manger, à aller sous le char. Et malheureusement, sur le champ de bataille, il n'y avait pas de gamelle. En se glissant sous le char, en fait, c'était le contact de leur ventre au ras du sol qui déclenchait les explosifs qu'on leur avait fait porter.
Juste une petite précision, Mathieu, pardon. Si vous voulez voir notamment les images des chiens en train de regarder les films de propagande allemande nazie, non mais parce que c'est vrai, il y a un documentaire incroyable qui s'appelle 39-45, Les animaux dans la guerre, qui avait été diffusé sur France 3, vous pouvez le retrouver sur Internet. Et vous allez voir ces images, c'est absolument hallucinant. Vraiment.
Absolument.
Voilà, donc chacun ses vices, comme on dit, mais donc on vient de découvrir qu'Eva, sa passion était donc de regarder seule chez elle des documentaires dans lesquels des chiens regardent Adolf Hitler. C'est étonnant, mais pourquoi pas, après tout, Eva, on ne vous juge pas. Eh bien, merci Farah Kessri pour cet éclairage sur les animaux en temps de guerre. Merci pour cette chronique, surtout sans chauve-souris. Il se peut que je vote pour vous cette fois.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. When you're feeling low, when you're feeling down, 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 when you're feeling mad, when you're feeling sad, 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 when you're feeling slow. And you're going low, low, low. When you hear the sound, don't you feel the flow? Sugar, open up your eyes when the sun comes up. Don't give up the fight, you will find way home. Hold on to your
Artiste belge, comment on dit, belgo-camerounaise, oui, belge et camerounaise, plutôt prometteuse, candidate à l'émission de The Voice en Belgique et qui a déjà fait la première partie de Youssou N'Dour. Elle s'appelle Loubiana, avec à l'instant sur Europe 1, Feeling Low.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et nos chroniqueurs compétiteurs, mais l'équipe est sauvage, c'est aussi l'occasion de passer un petit coup de fil à une personnalité.
Pendant un déconfinement total et à défaut de pouvoir les accueillir en studio comme avant, nous prenons chaque jour des nouvelles d'une personnalité. Personnalité qui parfois nous surprend, comme Benjamin Biolay hier, qui a pris cet engagement très fort, Eva. Mmh. Celui de venir nous interpréter pour la dernière de la saison une reprise de Big Bisou de oui. Carlos, reprise dont nous avons même eu un avant-goût.
Big Bisou, tadada, tadada. Big Bisou, tadada, tadada.
Aujourd'hui.
Moi, je l'attends impatiemment maintenant.
Ça, je pense que tous nos clair. Auditeurs l'attendent. Quelle surprise nous réserve notre invité, le moine bouddhiste Mathieu Ricard?
Laissez-le tranquille.
Une question, parce que je n'ai pas de réponse à ça, je ne me souviens plus. Est-ce qu'on chante lorsqu'on est moine bouddhiste? Est-ce que le chant fait partie des pratiques ou pas du tout?
Alors oui, il y a beaucoup de... D'abord, quand vous êtes en retraite dans la montagne, comme je ouais. le fais souvent face à l'Himalaya, ben, on ne chante pas tout seul encore, pourquoi pas. Mmh. Mais il y a beaucoup de cérémonies. Et là, il y a des chants très beaux, très graves, très, très solennels, très calmes. Voilà. Donc ça, c'est... La musique sacrée existe comme la peinture sacrée, les danses sacrées. L'être humain a naturellement tendance à chanter, danser. On essaie de relier ça au chemin spirituel plutôt de faire d'en faire un objet de distraction.
Oui, mais... bien sûr, oui, c'est, vous ne faites pas un karaoké.
Non, pour être clair, non, pas tout à fait. Non.
On va parler du livre que vous avez publié récemment avec des très belles photos qui s'intitule Émerveillement, mais je pense et j'ai envie de le signaler à nos auditeurs. Alors, je ne me souviens plus du titre, vous allez nous le donner. Moi, j'avais lu, c'est comme ça que je vous ai découvert, un livre, un dialogue avec votre père.
Oui, Le Moine et le Philosophe, c'est ça qui était le...
Le Moine et le Philosophe, voilà.
Soit ça, le début de mes ennuis, marquant. Soit le début d'une opportunité.
Alors aujourd'hui, l'ouvrage dont on parle s'intitule Émerveillement, c'est des photos de la nature absolument à couper le souffle. On va de l'Himalaya à l'Islande en passant par la Patagonie et le Yukon. Ce livre, vous passez beaucoup de temps à méditer face à la nature. La beauté est quelque chose qui est inspirant. Vous vous en servez ?
Ben bien sûr, parce que si vous voulez, quand on est émerveillé par quelque chose, d'abord, si vous voulez, le petit sentiment du petit moi confiné dans la bulle de l'ego se dissout devant cette immensité. On est beaucoup plus conscient de l'interdépendance de tous les êtres, de tout le monde des phénomènes. Donc, sentiment d'appartenance. Et quand on est émerveillé par quelque chose, on va le respecter. On ne détruit pas ce qui vous émerveille, comme on détruit beaucoup notre nature en ce moment. Et quand on respecte quelque chose, on veut en prendre soin. Quand on veut en prendre soin, on agit. Et donc, c'est aussi un appel et un cri d'alarme pour la protection de notre environnement, de la biosphère, qui est passablement en danger. Et d'ailleurs, maintenant, dans le déconfinement et la reprise des activités, la grosse erreur, ce serait de dire « relançons la consommation à toute vitesse. Oh, l'environnement, on verra ça plus tard. » Au contraire, il faudrait prendre les leçons de voir qu'on peut vivre mieux, de façon plus simple. Qu'il n'y a jamais eu aussi peu de pollution. En Inde, il y a un endroit à 200 km de l'Himalaya. C'est la première fois en 40 ans qu'ils voient l'Himalaya. Brusquement, les gens se rendent compte que si on arrêtait de polluer, les choses seraient quand même bien différentes.
Mathieu Ricard, on parlait d'optimisme tout à l'heure. Est-ce que vous l'êtes, vous, au lendemain de ce premier déconfinement? Est-ce que vous restez optimiste sur la période que nous allons vivre maintenant?
J'aimais bien une phrase de mon ami Yann Arthus-Bertrand qui disait « Il est trop tard pour être pessimiste ».
Eh oui.
En fait, si vous voulez, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tirer les leçons de ce qui s'est passé, voir que si les gouvernements peuvent faire preuve, comme ils l'ont fait, de détermination, de prendre des mesures draconiennes et que la population est prête à les suivre, si seulement ils mettaient un dixième de cette détermination au service de ce qui va se passer dans 10, 20, 30, 40 ans pour la planète, on y a un petit espoir de pouvoir mettre en œuvre toutes les recommandations des scientifiques que malheureusement, la plupart du temps, les politiques sont très tièdes à vouloir suivre. Donc peut-être que maintenant, on se rend compte que oui, ça vaut la peine de faire des efforts, de faire des sacrifices en apparence, parce qu'on peut très bien beaucoup moins consommer. Moi, j'ai toujours envie de faire une campagne publicitaire dans le métro en disant « n'achetez pas ce dont vous n'avez pas besoin, vivez mieux avec moins ». On peut vivre très bien de façon beaucoup plus simple.
Mathieu Ricard, sans vouloir résumer la philosophie bouddhiste qui est éminemment complexe en deux minutes sur Europe 1 cet après-midi, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour aller à l'essentiel? Comment aborder cette période qu'on vit, qui est quand même très particulière pour la plupart d'entre nous qui n'avons pas l'habitude de faire des retraites spirituelles? Comment on peut gérer ce quotidien? Est-ce que la méditation peut être un moyen, ou la méditation, finalement, c'est gadget? Qu'est-ce que vous conseillerez aux gens qui nous écoutent?
La méditation, c'est pas gadget. La méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Donc,
oui, mais il faut savoir
notre
pourquoi.
Notre esprit, on y a affaire du matin au soir. Et pour l'instant, c'est un enfant capricieux ou comme un singe qui arrête pas de bouger dans tous les sens.
Ouais.
Donc c'est pas un luxe d'avoir un esprit, un équilibre émotionnel, un plus grand calme, une plus grande sérénité intérieure. Moi, le conseil essentiel qui anime toute mon existence, c'est soyez davantage bienveillants les uns envers les autres. Même si vous devez rester un peu loin des uns des autres, au lieu de vous jeter des regards noirs, faites un sourire, faites un petit geste de la main. Rendez-vous compte qu'on est tous dans le même bateau, que c'est la solidarité, que c'est des problèmes globaux, qu'on doit les résoudre ensemble, que la coopération est l'avenir, pas la compétition acharnée. Donc vraiment, l'altruisme n'est pas un luxe, la bienveillance n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité à notre époque pour répondre aux grands défis de prendre soin des générations à venir, de prendre soin des plus démunis, de remédier aux inégalités, à la pauvreté au sein de la richesse. Tout ça passe par la considération d'autrui, et ça, c'est vraiment la chose essentielle à mes yeux.
Vous avez compris, Mathieu.
J'ai tout bien noté, et j'ai noté surtout les efforts que je devais faire.
Oui, voilà.
Je pars de très très loin. On a une dernière question, Mathieu Ricard. On a reçu la semaine dernière Bertrand Piccard qui nous disait, je cite, « Cette pandémie que nous vivons est presque symboliquement une vengeance de la faune sauvage. » Qu'est-ce que vous en... Vous êtes végétarien déjà, je crois, vous, Mathieu Ricard.
Oui, je suis végétarien, je suis végane, mais je connais bien Bertrand. Oui. Il a vu le monde de très haut.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est pas une vengeance, parce que la nature, elle se venge de rien. Simplement, si vous voulez, à force de martyriser notre environnement de façon tellement extrême, il y a une sorte d'équilibre naturel qui se met en place. Si les gens n'arrêtaient pas de bouger dans tous les sens, de manger des espèces sauvages, de bouffer du pangolin, des chauves-souris, des machins comme ça, je veux dire, toutes ces choses-là viennent d'un excès de l'être humain qui considère que l'univers tout entier est une sorte de produit de consommation, est à sa disposition. Les 8 millions d'espèces animales sont là pour nous divertir, pour nous vêtir, pour nous nourrir, alors qu'elles ont une vie propre et qu'on devrait davantage les respecter. Donc c'est effectivement un retour de boomerang, et on ferait mieux d'avoir une leçon d'humilité et de savoir vivre en harmonie durable avec ce qui nous entoure.
Et c'est le moment, Eva, de renouer avec la simplicité ou la sobriété heureuse que Mathieu Ricard appelle de ses voeux. Émerveillement aux éditions La Martinière, un texte très inspirant avec des photos magnifiques. Mathieu Ricard, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous
merci
cet après-midi.
Vous.
Et à très bientôt en studio, on l'espère.
Merci.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël vous accompagne tous les jours, même le week-end sur Europe 1. On le retrouve pour la suite de l'équipe est sauvage dans un instant avec Roger. Et en attendant, retour au début des années 80, 1982, Steve Miller Band, Abracadabra. Sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et ces 20 dernières minutes, oui, nous continuons de les passer avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock. Et bien sûr, les journalistes d'Europe 1, la compétition se poursuit. Comment le confinement a mis à plat le projet d'une vie? Un tournage de film, un livre qui devait sortir, un mariage? Oui, stoppé en plein vol à cause du coronavirus et du confinement. On en a parlé dans l'équipe sauvage, c'est le sujet d'approcher.
Incorrigible, hein. J'ai eu beau les tanner avant la pub, figurez-vous qu'Ève Roger et Nicolas Carreau continuaient de se raconter leurs prouesses intimes respectives. J'ai pas tout compris, mais...
Le train souterrain, c'est une image...
Oui, j'avais compris, t'inquiète. Oui. Bref, ça suffit. Ève, si vous voulez raconter un truc cochon que vous avez fait à Nicolas, murmurez-lui à l'oreille.
Oh mon Dieu.
Oui, ça suffit. Je crois... Ève, qu'il est temps d'entrer dans le vif de notre sujet.
Mon mari, arrêtez.
Un sujet, Ève, dans lequel vont peut-être, hélas, se reconnaître beaucoup de nos auditeurs. Vous nous parlez de ces Français qui ont été stoppés net dans leur élan par le Covid.
Eh oui, ils ont été nombreux à avoir le ciel qui leur est tombé sur la tête mi-mars, hein, quand Emmanuel Macron a annoncé le confinement de la France, sans toujours d'ailleurs vraiment réaliser à quel point ça allait bouleverser leur vie, parce qu'au départ, je vous rappelle, c'était quand même 15 jours seulement. Alors c'est vrai pour quelques dizaines d'écrivains qui ont sorti leur livre début mars. Alors c'est vrai, quand on s'appelle Guillaume Musso ou Aurélie Valogne, on a de quoi amortir le choc. Les livres sont vendus en grande surface qui sont restés ouverts, vous vous souvenez. Donc pas besoin de publicité, mais c'est moins vrai pour les auteurs inconnus, comme Stéphanie Hochet, vous ne la connaissez pas, c'est Nicolas Carreau, qui d'ailleurs me l'a conseillé. C'est lui qui m'en a parlé. Le 5 mars, elle publie son dernier livre Pacifique aux éditions Rivage. Quand elle apprend 11 jours plus tard, incrédule, que les librairies doivent aussi fermer, écoutez.
Là, ça a été quand même un gros coup de bambou. Je devais partir dans des festivals, j'avais plusieurs rendez-vous en librairie. Le livre démarrait sur les chapeaux de roue. Donc là, oui, ça a été un sacré choc. J'étais secouée, j'étais chamboulée, comme beaucoup d'écrivains dans mon cas. Mais nous, on se retrouve avec des années de travail. En l'occurrence, moi, le mien, je l'ai commencé il y a plus de 4 ans. Par ailleurs, en ce qui me concerne, ce texte-là est sans doute mon meilleur. Et on avait attendu un an et demi avant de le publier parce qu'on cherchait la meilleure date pour la sortie du livre. Et puis tout d'un coup, un produit, entre guillemets, qui est interdit à la vente. C'est extrêmement anxiogène.
Ah oui, ouais, ils avaient choisi, hein, ouais. Là, ils avaient choisi le bon moment, mais c'est horrible. Donc gros coup de déprime, pas d'article dans la presse évidemment, puisque les journaux ne parlent que du Covid. Les journalistes culture sont au chômage partiel dans beaucoup de journaux, donc pas de bouche à oreille non plus. Et Amazon qui suspend ses activités, c'était vraiment le trou noir.
Et là, par exemple, on peut de nouveau acheter son livre aujourd'hui?
Oui, heureusement, les librairies ont rouvert, vous le savez. Puis elle m'a raconté, Stéphanie Hochet, que pendant le confinement, justement, les libraires avaient eu le temps de lire les livres et qu'ils avaient aimé son livre Pacifique. Donc vous devriez pouvoir le trouver assez facilement en ce moment. D'ailleurs, ça donne envie de le lire. Alors, c'est pas le cas, en revanche, pour les films dont la sortie était programmée
en avril.
Et là, je vais vous raconter l'histoire terrible d'un jeune réalisateur. Lui s'appelle David Caviglioli et il devait sortir son premier film le 6 mai. Alors, une date, là encore, qui avait été méticuleusement choisie. Le mois de mai, il y a les ponts, il y a le festival de Cannes qui phagocyte les gros films, donc il y avait de la place pour les challengers, il m'a expliqué, sauf que le Covid s'en est mêlé. Ce film s'appelle Terrible Jungle, et tenez-vous bien, il y avait en star Catherine Deneuve, Vincent De Dienne, premier film vraiment très attendu. Catastrophe, tout est suspendu, et vous allez entendre David Caviglioli, il est encore malgré tout philosophe, écoutez.
J'étais sur la ligne, c'est une grippe, bien mal m'en a pris, j'ai mangé mon chapeau depuis. C'est 4 ans de travail, on se dit qu'on n'a pas de peau, mais en même temps, il y a tellement de situations dramatiques. Puis il y a d'autres angoisses, on va dire, qui reprennent le dessus. Au début du confinement, j'étais un peu comme tout le monde, j'étais plus angoissé par désinfecter mes poignées de porte que par la sortie de ce film, vous voyez. C'est vrai qu'il y a une sorte de mélancolie quand même, c'est que quand on est là, chez soi, à s'occuper de ses bébés, ce qui est une joie, évidemment, qu'on se dit, là, le film devrait sortir, on essaye de s'occuper, quoi.
Alors vous voyez, ils se sont dit, on va le passer à cet été, à l'automne, et puis finalement, ils ont décidé 2021. Il y a une expression qui dit on le laisse au frigo pour 2021.
Oui, on met au frigo, ouais. Voilà.
Et il n'y a pas que les artistes qui ont reçu un coup de bambou sur la tête.
Non, bien sûr, vous avez évidemment tous ceux qui devaient se marier, ça on en a beaucoup parlé, alors annulé, le traiteur, le photographe, le coiffeur, la salle de bal, enfin, on sait que beaucoup ont reporté. Je rajoute là, dans ma liste, le PSG, c'est peut-être ça va vous parler, il était pour la première fois, si j'ai bien compris, en quart de finale de la Ligue des Champions.
Il n'était pas pour la première fois en quart de finale de la Ligue des Champions, enfin, mais il était pour la première fois un peu bien parti pour peut-être faire quelque chose.
Chaque année on dit ça. Bon,
oui, c'est vrai.
Ouais. C'est du foot, en tout cas, j'en ai parlé à mon beau-frère qui m'a dit...
PSG.
Liverpool, c'est encore pire, mais je ne sais pas très bien pourquoi, vous le savez peut-être.
Non, je ne sais pas.
Et puis, parce que je crois que ça fait 30 ans qu'ils étaient en passe de gagner la Coupe du Monde en Angleterre.
La Coupe du Monde en Angleterre, alors, Eve.
Je propose
en tout cas, je sais que bientôt on va redéfinir les postes dans cette rédaction, je propose que vous preniez la tête du service sport d'Europe 1, à mon avis. Et Liverpool gagnerait forcément la Coupe du Monde d'Angleterre avec vous, je pense.
Voilà, pardon, j'y ai passé du temps avec mon beau-frère hier, pour ça. Et puis, terrible aussi, ça m'a frappé, tous les restaurateurs qui devaient ouvrir leur nouvel établissement le jour du confinement. Ils sont, je ne sais pas pourquoi, c'est une coïncidence, c'est une malédiction. Des gens qui ont tout lâché pour commencer une nouvelle vie, et patatras. Oui. Et j'en ai appelé un ce matin, alors je vais le citer parce que vraiment, il m'a fait de la peine. C'est la taverne d'Épicure à Loudun, dans la Vienne. Et là, je suis tombée sur Christophe, il est rentré spécialement du Brésil pour ouvrir ce restaurant. Et je peux vous dire, Christophe, il est bien déprimé. Et puis, je finirai avec les nombreux étudiants désespérés qui travaillaient en concours depuis des mois et des mois. Et oui. Alors, c'est le cas de l'Institut Lumière à Lyon, une école de cinéma. Et puis même notre propre bourse, notre concours de journalisme à Europe 1 était annulé. Et hier, j'ai eu une des candidates qui était absolument désespérée aussi.
Mais oui.
Donc je vous avais promis d'être joyeux. Puis on n'est plus joyeux du tout.
On a les larmes aux yeux. Merci quand même, Roger. Alors oui, l'épidémie a interrompu beaucoup de choses, mais rappelons-le encore et encore, le virus est toujours là. Il est donc toujours interdit, Eve, notamment de s'embrasser.
Même avec la langue. Hein.
Même avec la langue, oui. C'est important de le rappeler, effectivement, dans les gestes barrières.
16h, 18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
Les meilleurs moments de la semaine avec Mathieu Noël et Varoc, et à présent le gourmet de la bande, Olivier Pouls, qui a de bonnes idées pour nous aider à préparer notre panier repas à emporter au travail.
Eva, vos qualités sont innombrables, la palette de vos talents infinie. Mais il est un domaine où vous ne faites pas des étincelles, sauf évidemment quand vous mettez le feu à la cuisine, c'est justement la cuisine. C'est vraiment pas son truc. C'est vraiment pas son truc. Je donne un conseil d'amis, chers auditeurs, si jamais elle vous invite à dîner, comment dire ?
Oh oui, je vous confirme. Faut avoir mangé avant.
Voilà, c'est l'idée. Sauf évidemment si Olivier Pouls, notre cordon bleu, se décide enfin à lui inculquer les rudiments. Bonjour Olivier Pouls.
Olivier, défendez-moi tout de suite, s'il vous plaît.
Ben c'est vrai que, mon cher Mathieu, vous êtes un peu dur parce qu'elle m'a... Alors, je n'ai pas goûté, mais elle m'a envoyé en tout cas quelques photos de plats qui m'avaient l'air plutôt sympathiques et que j'aurais bien dégusté. Donc, on va attendre.
C'est surtout en pâtisserie que vous avez des notions, Eva.
Ma ratatouille, vous avez goûté ma ratatouille.
Non, je n'ai pas goûté votre ratatouille, comme vous me le dites. Mais je m'en passerai encore un petit moment. Olivier.
Oh, c'est moche.
Olivier, c'est vous, le cordon bleu d'Europe 1. C'est vous, notre expert, qui chaque soir nous donnait une petite recette facile. En ce moment, cette semaine, le thème, c'est le Tupperware qu'on peut se préparer à la maison pour le déguster au bureau à midi.
Oui, absolument, et vous allez pouvoir le préparer pour l'emporter lundi si vous le voulez. Mais avant, je voulais vous dire que je profitais aussi de ce petit moment pour apporter moi aussi ma contribution, vous savez, à la défense de la sécurité et de la santé publique. Je vous ai envoyé hier la photo d'un masque que j'ai mis au point.
Alors
c'est un masque, il est validé. Il est validé par le syndicat national de la charcuterie française, un norme BDC2, bouffe du cochon. Alors, pour le réaliser chez soi, on peut le faire. C'est trois tranches de jambon de pays superposées. Il faut trois couches. Je couds le tout avec un fil de boyau de porc. Et l'avantage, c'est que ce masque, une fois que vous l'avez porté pendant une demi-journée, vous pouvez le manger.
Ah bah exactement.
Donc, il est totalement biodégradable.
On va mettre la photo sur les réseaux.
Et comme ça, vous sentez très bon. C'est un nouveau parfum qui s'imprègne directement sur votre visage. C'est une très belle idée, signé Olivier Pouls.
Oui, il faut bien mettre le gras au-dessus d'ailleurs pour qu'il recouvre le nez.
Évidemment, ça filtre bien.
Je vous en ai préparé quelques-uns, les amis. Je vous les apporterai personnellement bientôt.
Je veux un modèle neuf, voilà. Pas porté. Hein.
Mon Dieu.
Merci.
Mais sinon, il y a une recette pour demain ou pas ?
Oui, évidemment qu'il y a une recette.
Vous êtes déjà tellement loin avancé dans l'apéro que vous n'avez plus de recette.
Non, mais évidemment qu'il y a une recette. Et une recette que je trouve, personnellement, je suis assez content de moi aujourd'hui. Originale, facile et je pense assez délicieuse. On va faire une espèce de salade façon maki. Vous savez, le maki japonais.
Ouais.
Donc, on va prendre tous les ingrédients qui constituent un maki, du riz. Mais alors, ne prenez pas du riz à sushi parce que c'est un riz qui est trop collant. Donc, prenez un simple riz long, classique que vous allez laisser cuire.
C'est vous qui êtes rond, ne confondez pas avec le riz.
Et ensuite, faire refroidir. Et puis, il vous faut des crevettes, un avocat que vous allez détailler en petits morceaux et une vinaigrette un petit peu originale. Alors, cette vinaigrette, on va se baser là aussi sur des recettes japonaises, sur la tradition japonaise, donc sauce soja, vinaigre de riz, un petit peu de wasabi, et puis vous allez détailler des algues noires, là, les algues nori qu'on utilise en cuisine japonaise, vous allez couper des petits morceaux et vous allez intégrer ça dedans. Et vous allez mélanger cette salade. Vous aurez toutes les saveurs du maki dans une salade à déguster comme ça, tout simplement, le midi chez vous ou au bureau, et sans avoir à vous embêter, vous savez, de rouler les makis dans l'algue, ce qui est toujours un petit peu compliqué.
Ah, c'est pas bête du tout.
Tellement compliqué quand personne n'a jamais tenté ça, Olivier, à part vous.
Bah écoutez, je n'aurais pas la prétention de pouvoir faire de la grande cuisine japonaise. J'ai trop de respect pour les maîtres sushi et les gens qui font ce travail, que c'est vraiment quelque chose auquel je ne touche pas, si ce n'est avec cette salade un peu déclinée.
C'est très bien.
Olivier Pouls, c'est très bien. Et je note que les cloches n'ont pas encore sonné, ce qui vous laisse encore un peu de temps pour vous préparer à retrouver monsieur le curé pour l'apéro.
Oui, non, mais allez boire un verre d'eau, surtout avant. Là.
Voilà. Ouais, et surtout, arrêtez de faire des masques qui ne sont pas conformes à la réglementation européenne, parce que ce n'est pas le cas. Un masque, on le rappelle à nos auditeurs, un masque fait avec du jambon ne peut pas être un masque efficace contre le coronavirus. Merci, Olivier Pouls.
Vous êtes sûr ?
Oui, je suis sûr. Je ne suis pas médecin, mais je suis sûr. À demain.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Allez, on reste encore un peu avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock. Dernier sujet à découvrir, celui de Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1.
Cajoler vos zygomatiques sans nuire à vos cerveaux, c'est la mission chaque après-midi de l'équipée sauvage. Deux heures de bonne humeur mais également de découverte grâce à la compétence incomparable de nos journalistes qui défilent au micro. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Peut-être Mathieu Charrier, notre ultime concurrent du jour, un journaliste qui est vraiment un formidable conteur, qui sait installer une ambiance, un rythme dans ses chroniques. Alors évidemment, il faut qu'il soit un minimum aidé. Si Eva s'en mêle, ça peut quelque peu casser le rythme de son papier, comme mardi dernier.
Alors par exemple, les amis, si je vous demande, vous, votre souvenir de cinéma le plus insolite, vous me répondez quoi ?
J'en ai aucune idée. Je passe là parce que insolite, je sais pas. Ça me revient pas. Ouais.
La réponse d'Olivier Nakache, Sandrine Kiberlin et Alain Chabat. Écoutez.
Ah si, je sais.
Après.
Oui, après.
c'est soit sur le moment, soit après. Mais pas, faut quand même préciser qu'elle reçoit les textes en amont. Donc en elle avait plus, vu que j'allais lui demander ça.
Mais non, mais alors là, je vais vous expliquer. Oui. Je fais exprès d'avoir.
De pas les lire. De pas les lire.
Voilà, un peu de fraîcheur à l'antenne.
Pas trop de spontanéité. Mieux vaut préparer à l'avance. Mathieu Charry, vous nous parlez du cinéma, de l'industrie cinématographique qui se réveille doucement. Avec
la reprise notamment des tournages, hein, puisqu'Emmanuel Macron l'a annoncé la semaine dernière, les tournages vont reprendre. D'ailleurs, dans la foulée, la ville de Paris a de nouveau autorisé les tournages dans la capitale. Donc, ça y est, je vous parlais notamment il y a quelques semaines, vous savez, des décors figés dans l'occupation à Montmartre.
Ah oui, c'est vrai.
Monsieur Affleck.
Ouais.
Eh bien, ça y est, ça va donc pouvoir reprendre.
Alors, à vous écouter, c'est reparti comme en 40, mais il n'y a pas de mesure spécifique.
Il y avait une blague dans la cette relance.
Oui, mais si vous voulez, il y a un moment quand même, j'ai
40,
quand même une petite image, je ne peux pas dire absolument n'importe quoi. Donc, je n'ai pas mis, effectivement, c'était écrit, c'est reparti comme en 40, entre parenthèses.
Et Abrico Macias, vous l'avez assumé.
J'ai fait l'impasse sur le mais il n'y a pas des mesures spécifiques.
Alors,
quand même.
Si, bien sûr, beaucoup, qui en réalité rendent cette reprise des tournages très, très difficile. Déjà, bon, tout le monde masqué, gel hydroalcoolique aux quatre coins du plateau, ça, ok, il n'y a pas trop de soucis. Mais ensuite, pas plus de 50 personnes sur le tournage. Alors, pour un tournage de taille moyenne, ça va. Mais pour les gros tournages, c'est mort, parce qu'il faut le savoir qu'en général, vous savez, il y a 150 personnes sur certains tournages. Et c'est comme sur un chantier, c'est-à-dire que le plombier ne peut pas faire le travail de l'électricien. Donc là, c'est pareil, c'est une organisation militaire. Donc d'abord, problème pour certains tournages concernant le nombre de personnes, de techniciens. Puis ensuite, vous savez, il faut notamment garder 2 mètres de distance. Comment vous filmez quelqu'un en gros plan, en étant à 2 mètres de lui?
Vous changez de focale.
C'est hyper compliqué. Je prenais un gros zoom.
C'est très intéressant, vous changez de focale, mais j'en discutais avec un réalisateur. Vous savez qu'au cinéma, chaque plan est pesé, chaque plan est réfléchi, et une focale...
Ça dépend des réalisateurs.
Mais pour les bons
par
films...
Par exemple, dans Max Pécasse, on se calme en bois face. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réflexion qui est présidée à chaque plan. Mais bon.
En tout cas, si vous réfléchissez à chaque plan, eh bien évidemment, vous n'utilisez pas la même focale, le même zoom, pour parler en langage plus courant. Et donc, comment vous faites si vous avez prévu de filmer quelqu'un en vrai gros plan et que vous devez être à 2 mètres de lui, eh ben c'est impossible. Donc ça va faire travailler et sans doute faire évoluer beaucoup de scripts.
Et donc ça a des conséquences sur la mise en scène.
Eh ben oui, impossible aussi de tourner des scènes de groupe, exemple, puisque vous ne pouvez pas réunir plus d'une dizaine de personnes. Comment vous faites? Prenez Envole-moi de Christophe Baratier, porté notamment par Gérard Lanvin. Le tournage était en cours, il devait tourner au Parc des Princes.
Oula.
C'est un peu embêtant, il devait y avoir des centaines de figurants. Évidemment, c'est plus possible, il faut revoir le scénario. Ça va d'ailleurs être amusant de voir dans quelques semaines ou dans quelques mois les films qui vont sortir et où il n'y aura plus, vous savez, de scènes de groupe parce que ce sera forcément des gens à 2 mètres de distance. Et puis, Mathieu Eva, moi j'ai écrit mon scénario, vous avez les deux rôles principaux, c'est l'histoire d'un amour.
Je sais que ça va plus. Impossible.
Mais qui, finalement, se réalise à la toute fin. Ma scène clé qui doit faire pleurer les gens dans la salle, c'est le baiser final.
Ah merde, on ne peut pas le faire. Ah, c'est con, Eva. C'est con.
Je suis trop déçu.
S'embrasser en respectant les gestes barrières.
Mais
en vrai, c'est une vraie question. Alors, j'ai passé le coup de fil à des producteurs. Il y en a certains qui m'ont dit on y a réfléchi, on va proposer aux acteurs de les tester. C'est-à-dire de tester s'ils ont le Covid
comme
ou pas.
Après, ils vont se galocher comme des porcs, même ensuite.
Mais le problème, c'est que vous savez que le test, il est valable en instant T. C'est-à-dire que si vous testez Eva, qu'elle est négative, mais que 3 jours après, il y a la scène du baiser, et qu'entre-temps, elle a chopé le Covid, et c'est foutu. Donc, en réalité, c'est un risque qu'il va falloir accepter de prendre, et c'est probablement
les assurances,
les acteurs qui vont accepter ou non de le prendre.
Et si on découvre que quelqu'un est contaminé sur un tournage, comment on fait? On arrête tout?
Eh bien, en théorie, oui, parce qu'il va falloir tester tout le monde. Si vous avez un technicien ou un chef opérateur ou un acteur qui est positif avec, vous savez, la règle d'aujourd'hui qui est de remonter les fameux cas contacts, c'est-à-dire les gens qui ont été en contact avec lui, en théorie, vous devez tout arrêter et tester tout le plateau, ce qui est évidemment très compliqué. Et vous parliez, Eva, des assurances. C'est tout le problème aujourd'hui pour la reprise des tournages, parce que pour faire un tournage, vous devez être assuré, c'est obligatoire. Sauf que vous imaginez bien que les assurances, elles ne sont pas du tout d'accord pour risquer de remettre le moindre centime sur un tournage aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que l'État a dit on va mettre un fonds de soutien de 50 millions d'euros avec les régions, etc., qui va permettre d'assurer les tournages, et les assurances doivent y participer. Mais ce n'est pas du tout gagné. Et je sais qu'il y a des gens, j'en discutais avec des amis, ils disaient pas de tournage, c'est pas grave, on n'aura pas de film pendant quelques semaines ou quelques mois. Mais c'est faux, il faut se rendre compte que c'est une industrie. Il faut savoir que la culture, ça représente beaucoup plus dans le PIB français que l'industrie automobile, par exemple, dont on parle beaucoup. Donc des tournages qui s'arrêtent, que ce soit des tournages.
C'est une catastrophe économique pour tout le monde.
De cinéma,
qu'on aime le cinéma ou pas.
C'est une catastrophe économique, c'est en chaîne, c'est non seulement pour les salles, c'est pour les techniciens, c'est pour tous les emplois directs et indirects, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Donc c'est pas juste. Vous savez, il y a aussi des fois ce discours un peu populiste. Ah ouais, c'est pas grave, les acteurs,
la culture
gagne,
ils
s'arrêtent un petit peu.
Oui.
Non, c'est pas juste la tête d'affiche qui va devoir s'arrêter et qui, effectivement, a peut-être un peu d'argent de côté. C'est tout ce qu'il y a derrière et c'est toute une chaîne économique qui est en danger. Donc, soutenez les tournages, soutenez les cinémas. Et s'il vous plaît, si vous regardez des films sur votre télé, louez-les en VOD, ne piratez pas, ça n'a l'air de rien, mais c'est une manière aussi d'aider. Quand on applaudit les soignants tous les soirs, payons, ça coûte quelques euros et ça peut vraiment aider l'industrie du cinéma.
qui va pas bien.
Mobilisez-vous, c'était le
raison,
message de Mathieu Charrier.
Merci.
Très belle chronique Mathieu, et sans révéler hein, les votes sur Twitter, vous qui gardez toujours un œil dessus, une petite indication de votre classement aujourd'hui. Merci pour votre discrétion.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage s'éloigne, mais pour mieux revenir demain dès 16h sur Europe 1 avec Mathieu Noël. Et dans un instant, le grand journal du soir présenté par Wendy Bouchard, 2h pour faire le tour de l'actu. A tout de suite.